Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de Divan Quest. Ben oui, on est rendu avec un thème, hein? Non, je trouve que ça ajoute vraiment une belle valeur de production. Ça fait vraiment très professionnel.
Moi, je pensais que t'allais y aller avec une joke de numéro 2, mais...
J'y ai pensé. Non, mais ça, je trouve que ça faisait un beau fini professionnel. Ben, jusqu'à temps qu'on commence à parler, là, mais... on va en profiter pendant que ça dure, tu sais. Ok, comment ça va, les gars?
Pas pire!
Ah, ça va super bien, super bien.
Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine?
Écoute, moi, je suis en grosse recherche d'un... Game Boy Advance SP AGS 101 après plusieurs contacts infructueux.
Précisons par contre qu'un AGS 101, c'est les Game Boy Advance SP, mais avec l'écran vraiment rétroéclairé.
Ouais, donc après plusieurs coups de téléphone et recherches infructueuses, encore en recherche, mais ça, en tout cas, je pense que un jour, elle sera mienne. Un jour.
Ben, bonne chance.
Ben, merci.
Ben, écoute, Danny, moi, pendant que toi tu cherches, ben, moi, je suis en train de me retaper A Link to the Past sur mon AGS 101.
Hey, belle l'écran.
Si je m'éclaire avec ça, dans le
on s'excuse, écoute.
Ben, sinon, pour ça, j'ai remonté ma MAME, mon arcade Multi Arcade Machine. Qui est quasi fonctionnel à ce jour.
Ah, fait que t'as pas encore eu le temps de jouer dessus.
On va se reprendre demain.
C'est bon. J'accepte le challenge que t'as pas encore lancé. Parce qu'il va en avoir un.
À suivre.
Excellent. Puis moi, de mon côté, ben je continue ma quête de ramasser un nombre absurde de nombres de Game Boy. Non, mais vas-y, Dan, sois là. C'était pas satisfaisant comme bruit d'ouvrage de bière, mais...
On s'en reprendra.
L'intention était là. Non, je continue avec mes jeux de Game Boy comme un enragé à dépenser beaucoup trop d'argent, mais je commence à récupérer des bons titres. On va sûrement avoir le temps de vous en parler de quelques-uns dans les prochaines semaines. Fait que c'est ça de mon côté. Fait qu'aujourd'hui, Danny, de quoi tu vas nous parler, toi?
Je vous parle de deux jeux de mobile parce que les jeux plus intéressants s'en viendront une fois qu'ils seront plus avancés, là. Donc, deux jeux de mobile, Don't Get Fire et Fallout Shelter.
Excellent. Jeff?
Ben moi, je vais parler d'un jeu qui est sorti au début du mois d'août, en fait, dans la deuxième semaine d'août, qui s'appelle Everybody's Gone to the Rapture au PlayStation 4.
Good. Puis moi, de mon côté, ben, je vais commencer directement avec ça. Je vais vous parler de Volume de Mike Battelle Games.
Yes!
Avez-vous entendu parler un petit peu? Qu'est-ce que vous savez là-dessus, les gars?
Moi, j'avoue que je me suis gardé vierge de toute référence parce que je me suis dit, je vais écouter ce qu'il va dire là-dessus avant qu'on aille plus loin.
Moi, j'avoue que ça fait quelques mois que je suis Mike Battelle sur son développement puis que je me suis empêché de l'acheter parce que tu voulais faire une review dessus.
Ben, merci de ta retenue. On va se mettre un petit peu de musique de Volume parce que le soundtrack est digne de mention. Non, c'est ça, Volume de Mike Battelle Games, le deuxième jeu de Mike Battelle qui est sorti le 18 août dernier, présentement sur PC et PlayStation 4 seulement. On était supposé avoir la version Vita en même temps, elle a été repoussée un petit peu. Moi, j'ai joué à la version PC.
Puis il y a juste un 10% off, je pense.
C'est jusqu'à aujourd'hui, le 24 août. Malheureusement, quand les gens vont écouter ça, il va être trop tard. Mais c'est ça, il y avait un 10% de rabais jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, c'est du créateur de Thomas Was Alone, qui était un platformer qui a eu beaucoup d'attention de la part de la critique, puis qui a permis à Mike Battelle de nous sortir cette semaine, ben la semaine dernière en fait, Volume. Pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec le jeu, c'est un jeu à la Metal Gear, un jeu de stealth, ou on dirait en français jeu d'infiltration, jeu de furtivité pour moi.
Je pense qu'infiltration, c'est...
Ouais, mais c'est parce que ça a certaines... connotations thématiques qui sont pas forcément toujours valides.
Bref, un jeu où il faut pas que tu te fasses pogner.
Ouais, c'est ça, un jeu où on évite les confrontations directes. Fortement inspiré du premier Metal Gear Solid sur PlayStation 1 et PC. Et principalement, en fait directement inspiré des VR Missions qu'il y avait en petite partie directement dans Metal Gear Solid 1 et qui ont même eu une release standalone qu'on avait à part. C'est ça, je vais rentrer plus dans les détails du gameplay un peu plus tard. Au niveau du contexte du jeu, c'est dans un futur proche, aux alentours des années 2050, en Angleterre, sous le règne d'un gouvernement totalitaire. Mais le tout se passe en réalité dans une espèce d'entrepôt où le personnage principal agit en fait comme une espèce de YouTuber à cette époque-là, où est-ce qu'il stream des simulations de vol qu'il fait dans des endroits réels. Simulé à partir d'un environnement de réalité virtuelle pour montrer au monde comment faire. Pour inciter le monde à causer le chaos, etc. Donc, c'est une super belle façon d'utiliser les limitations du gameplay.
Ça justifie V for Vendetta un peu.
Oui, définitivement. Ben, aussi tout le côté, il y a vraiment comme une espèce d'amour là, je pense, du combattre le gouvernement puis Big Brother en Angleterre. Ce jeu-là se retrouve dans cette vague-là, un peu comme V for Vendetta l'était. Mais tout ça est présenté en fait comme un retelling, une version modernisée de Robin des Bois. Thématiquement et les éléments narratifs sont tous là. On va commencer à plus parler du gameplay, départager les points que j'ai aimé ou moins aimé sur le jeu. Ça ressemble beaucoup, comme je disais, à Metal Gear Solid le premier. En plus, en entrevue, Mike Bittell avait même relevé que un des défauts, si on voulait, de Metal Gear Solid, c'est que, aussi beau que le jeu soit, on joue beaucoup avec le radar. Parce que c'est là qu'on voit le cône de vue, de vision, des gardes. Ce qui fait qu'en réalité, on joue dans le 3 pouces dans le coin de l'écran. Puis on est dépendant de ça énormément pour comment qu'on joue. Le jeu, lui, vu son contexte de réalité virtuelle, intègre toute cette information-là à même l'écran. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de jouer sur le radar de Metal Gear Solid en plein écran. C'est une excellente façon d'approcher ce problème-là et de communiquer excessivement clairement l'information. Je trouve que c'est une très très belle réalisation du concept de Metal Gear Solid en se souciant d'abord et avant tout du gameplay. Et parlant du gameplay, chacun des tableaux sont encapsulé. Il y a beau avoir une trame narrative à travers le jeu, chaque tableau a ses propres objets. On ne traîne pas un objet d'un tableau à l'autre. On va toujours retrouver ce qu'on a besoin à l'intérieur du tableau. Fait que ça permet vraiment de garder le design encapsulé. Comme ça, on a les. Ça permet d'aller chercher un objet à partir même d'un puzzle. Donc, on a toujours une expérience complète à chaque tableau.
Mais est-ce que à travers ça, est-ce qu'il y a une rejouabilité qui peut être intéressante ou si c'est...
Ben, pour chacun des tableaux, c'est sûr que comme tous les jeux de stealth, c'est toujours un peu un puzzle de figurer la ronde des gardes, de voir où il y a des opportunités. Fait que ça peut être limité là-dessus, mais il y a des bonnes options qui sont apportées pour la rejouabilité. On va en parler, mais je suis pas inquiet que c'est un jeu auquel je vais retourner dans l'avenir. Au niveau de l'histoire... L'histoire est contée de façon indirecte. Le focus du jeu, là, je l'ai dit, je vais le redire, il est sur le gameplay. Toutes les décisions thématiques, de présentation, c'est le gameplay en premier dans tout. Fait que même l'histoire est contée de façon indirecte. Il y a trois cutscenes dans le jeu. Une au début, une au cours du jeu, et une à la fin. Tout le reste de l'histoire est compté à travers des communications audio, parce que le personnage principal, Loxley, communique avec l'intelligence artificielle qui crée le système et parfois avec un autre personnage là, de façon plus restreinte, mais tout se passe au niveau vocal. C'est juste des clips audio qui sont joués pendant qu'on joue. Puis il y a certains éléments de texte aussi qui sont glissés un petit peu partout dans le jeu, un petit peu comme les diaries qu'on voit dans beaucoup d'autres jeux là. Mais ces éléments-là sont secondaires. La narrative directe est toute audio à travers les trois petites cutscenes. Ce qui fait que quand on joue, on passe tout notre temps à jouer. Ça, vous savez que c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement important. Dans mon amour des jeux rétro, c'est souvent ce qu'on obtient comme expérience, c'est du jeu, du jeu, du jeu. L'histoire, on la veut, mais ils trouvent toujours moyen de nous la conter avec assez peu d'intervention.
Comme plus subtilement, elle est là quand même, mais c'est pas 3 heures de cutscene avant de commencer à jouer. Là.
Bingo! C'est pas autant que j'adorais Metal Gear Solid, quand tu y rejoues pour l'histoire, parce que... Faut que tu vives avec. C'est plus la moitié de ton gameplay. Ici, du tout. Du tout, du tout. Pour le 6 heures que ça m'a pris à faire le jeu principal, y a pas 10 minutes qui est pris dans l'histoire. Là. Parce que le jeu est constitué de base de 100 tableaux. Qui sont tous, comme je disais, encapsulés. Et on voit notre progression en pourcentage. C'est assez facile à suivre, il y a 100 tableaux. Puis c'est vraiment le seul indicateur de la progression, outre que narratif, c'est un 1 sur 100. Là. Mais il y a des éléments à ça que je vais revenir plus tard. Comme le premier jeu de Mike Bittell, Thomas Was Alone, c'est extrêmement bien écrit. Le gars, il a un don d'écriture. En plus d'avoir des bons goûts de game design, il écrit excessivement bien.
C'est lui qui écrit?
C'est lui qui écrit. Qui écrit les dialogues, qui écrit l'histoire au complet.
C'est cool.
C'est... très très bien écrit. Les diaries qu'on retrouve un peu partout sont présentés comme des coupures de journaux, des extraits d'entrevues, etc.
Ça, ça rajoute à l'histoire dans le fond, ce que tu trouves là.
Oui, exact. Ben, c'est ça, ça étoffe l'univers. Vers la fin, ça devient un peu plus précis, mais ça reste que on peut comprendre l'histoire simplement à travers les clips audio.
Moi, je suis un tripeur d'histoire. Quand j'ai un jeu, j'aime l'histoire, j'aime le monde, j'aime voir ce qui se passe. J'aime beaucoup le gameplay aussi, là, sinon je ferais juste écouter un film. Mais donc quelqu'un comme moi qui tripe un peu sur l'histoire serait content de trouver une coupure de journal, de la lire, puis ok, ouais, c'est ça. Fait que, ça pourrait me rajouter, moi, à mon plaisir à jouer à ce jeu-là.
Ah oui. Ben moi, je les ai toutes lues, là. J'ai pas skippé l'histoire, je suis pas mon genre non plus, là. J'aime les histoires dans les jeux, mais faut pas que ça devienne la raison de jouer. À moins que ce soit la seule raison d'être joué au jeu. C'est jouer au jeu de Telltale. Exactement, les jeux de Telltale, tu joues pour ça. Mais non, dans ce cas-là, c'est un focus sur le gameplay, t'as beaucoup de coupeurs de journaux, l'histoire est très bien étoffée, mais t'as l'impression que t'as découvre, t'as pas l'impression que t'es passager. Puis si tu veux pas lire les notes, t'as juste à pas les lire. Ça t'empêchera jamais d'avancer. Ensuite, par contre, dans les choses que j'ai trouvé un petit peu moins le fun, c'est mineur, là. Ok, je veux vraiment pas que ça détracte de l'expérience d'aucune façon, mais... Il y a toujours, quand on joue, il y a toujours le timer du temps qu'on a dans une mission à l'écran. Pour un jeu de stealth, pour un jeu d'infiltration, c'est un peu... c'est pas le premier réflexe des gens de se sentir poussé dans un jeu. Puis le fait que le timer soit à l'écran, ça m'a drivé à essayer d'aller plus vite. Parce qu'il est là. Fait que personnellement, je pense que sur la première fois que tu le joues, sur le premier playthrough, ça aurait peut-être pas dû être là. Mais je vois l'intérêt futur pour... Parlant de rejouabilité, là, y a un leaderboard pour chacun des tableaux. Puis les tableaux ont clairement des façons d'optimiser comment qu'ils vont être joués pour justement battre des leaderboards. Mais je trouve que la première fois, c'est un petit peu aliénant. Et en plus, par rapport à l'histoire, le jeu coupe jamais un dialogue. Tu manqueras jamais un bout de dialogue à cause de ce qui se passe dans le jeu. Donc, si tu lis un diary qui est à terre, si tu meurs ou si tu t'alertes les gardes, le jeu va poser le dialogue puis va recommencer le dialogue en cours au complet pour être sûr que tu manques rien. Mais à cause du focus, ben en fait de l'élément du timer, du focus indirect sur le speedrunning, des fois tu te sens mal d'être juste comme à côté en arrière d'une colonne à écouter ce qui se passe. Tu te dis, ouais, enfin, je recommence les tableaux pour avoir un meilleur score.
Mais ton score a-t-il un impact sur rien d'autre
non,
que
dans Pantone.
Fait que dans le fond, l'histoire devient un frein au gameplay si tu veux t'arrêter à l'histoire.
Ben, c'est pas. Le gameplay implique pas le speedrunning, mais ils ont mis le timer. Fait que tu me vois avancer, puis ça devient comme un. Ça me gratte tout le temps un petit peu quand je joue.
Est-ce que tu le revois? As-tu une façon de le revoir chacun des tableaux sur les 100 tableaux?
Oui, il est toujours présenté. Entre chaque tableau, t'es devant la liste des tableaux. Okay. Avec le plus récent débarré en haut pour continuer. Carrément.
Mais t'as les temps indiqués?
Ouais, tu vois ton temps sur le leaderboard.
C'est vraiment un incitatif.
C'est ça, je trouve que le leaderboard est assez central, puis je comprends l'idée, mais la première fois que tu fais un tableau, je l'aurais enlevé, complètement, personnellement. Autre chose qui est un petit peu... Bon, qui m'a un petit peu arrêté dans le jeu, il y a un système de checkpoint qui est bien fait. Dans les tableaux, t'as des petits carrés qui apparaissent à différents endroits, puis quand t'es traverses, ça fait un checkpoint automatiquement. Ce qui fait que tu peux facilement mettre des checkpoints partout dans les tableaux. Donc, ça permet de mitiger des fois la difficulté qui peut être élevée. Mais tu peux quand même passer à travers dans un checkpoint quand tu es en alerte, quand tu te poursuis par un garde. Puis de la façon que le jeu est monté, c'est pas comme dans Metal Gear, tu perds pas de la vie parce qu'il n'y a pas de confrontation directe. Tu dois toujours éviter les gardes parce que si tu passes un certain temps dans leur champ de vision, qui peut varier selon le type d'ennemi, quand ils atteignent le timer fini, essentiellement, tu meurs. Puis là, tu reloads le checkpoint automatiquement. Mais si tu es en train de te faire poursuivre, juste avant que tu meurs, ça devient au ralenti. Tu peux traverser le checkpoint en slow-mo, puis le jeu recommence directement à ce checkpoint-là. J'ai vu que Mike Bittell a dit qu'il allait mettre un mode Pure Stealth qui va enlever ça, mais je pense même pas que ça aurait dû être dans le jeu de base. Mais tu regardes, là, c'est ça les points négatifs que je trouve à date, là, c'est assez spécifique. Mais j'ai trouvé que c'était trop facile à abuser, ce qui faisait que des fois, tu avais des runs à travers des tableaux qui étaient pas propres. Mais t'es passé quand même, ça. Fait que je trouvais ça un petit peu limite. Et mon dernier point négatif, c'est que vers la fin du jeu, parce que t'as quand même une progression des objets que tu débarres dans les différents tableaux, on débarre une arme qui est offensive, qui permet de se donner un garde, de le désactiver pendant un certain temps. Et je trouve que ça... ça contredit un petit peu le rythme du jeu jusqu'à ce point-là. C'est utilisé dans très peu de missions, c'est utilisé de façon intéressante. Ça te permet pas juste de désactiver toutes les gardes puis de passer sans faire de stealth. Mais c'est ça, c'est, je pense qu'il aurait pu continuer sans mettre cette arme-là. Ouais, je pense que ça aurait mieux. C'est parce que je vois mal comment ça se transpose dans l'idée où est-ce que tu montres aux gens comment faire des crimes. Là, tu leur montres à attaquer, à t'offenser. Peut-être que j'ai manqué un lien thématique, mais je trouvais que ça trahissait un petit peu le.
Ouais, c'est comme un élément de gameplay qu'ils ont voulu rajouter qui fit moins avec le reste de l'histoire puis du.
C'est le feeling que ça m'a donné. C'est peut-être ma perception, mais. Parce que je veux pas être trop négatif parce qu'il y a eu des bons puzzles avec, mais je pense pas que c'était nécessaire. Ensuite, pour le look, pour ceux qui voient pas le gameplay comme mes collègues ici à la table, le look du jeu est écœurant. J'aime toujours les looks de réalité virtuelle, les fameuses grilles qui look néon.
Minimaliste, là.
Minimaliste, bien sûr, et le jeu le fait à la perfection. C'est toujours des grosses couleurs contrastantes que l'intelligence artificielle dans le jeu se permet même de commenter parce que c'est lui qui crée les environnements. Fait des fois, il va même parler de... Genre, il dit « Oh, je commence à m'en venir bon avec les palettes de couleurs. Ouais. » Il y a plein de petits détails comme ça. Puis c'est tout dans le but de représenter des véritables environnements, mais de façon excessivement minimaliste. Fait quand tu vois une bibliothèque, là, c'est juste des planches, des plans complètement plats, là, sans texture, rien, puis avec d'autres planches plus petites qui représentent les livres complètement plates. C'est écœurant, hein? Le jeu est super beau. Ça a le look et le feel de Metal Gear Solid 1 VR Mission, mais simplifié. C'est pas tout le look genre excessivement détaillé de la réalité virtuelle de Metal Gear, là. C'est des blocs pleins de couleurs. C'est super beau. Ne serait-ce que pour le look, là, aller voir une vidéo, ou essayer le jeu idéalement, là, mais juste le voir, c'est super beau.
C'est vrai que ça donne un beau visuel. T'as pas besoin d'avoir une machine de Mongol pour jouer à ce jeu-là et en profiter parce que c'est des blocs avec des textures simples, des dégradés, puis pas des dégradés, même pas, là, des, c'est deux, trois couleurs qui se contrastent.
Puis je trouve ça fun que t'as tout le look minimaliste, mais quand tu t'approches des côtés du tableau, tu vois les comme le hangar justement ou l'entrepôt dans lequel il est.
Ouais, ben c'est ça. Il y a un seul véritable environnement dans le jeu, puis tu le vois à peine. C'est les projecteurs de réalité virtuelle dans les coins du hangar, puis il y a une petite table avec une TV, mais tu les vois à peine. C'est juste quand tu arrives ces limites d'un tableau que tu vas les voir. Non, c'est. Puis ça permet aussi qu'en ayant peu de détails comme ça, l'information que tu as à take in, à considérer pendant ton tableau, est toute devant toi. Puis tu peux pas dire, oh, j'ai pas vu ça. C'est jamais perdu dans l'environnement. Donc, point excessivement positif. Puis pour continuer sa présentation, ben le soundtrack que je voulais vous faire entendre, il était écœurant.
Tu le fais entendre peut-être un peu trop fort, là. Il y a peut-être du monde qui saigne des oreilles.
Là, on dit ça, mais dans le fond, au mix, on va le remettre dedans. Bref, on coupe tout ça au montage, anyway. Non, le soundtrack est super bon, très très cinématique, très très énorme, avec des chorales. Puis ça prend quelques cues de Metal Gear, mais c'est surtout très très cinématique comme film. Puis les voice actors, il y a seulement trois acteurs principaux, il y a quelques personnages secondaires, mais extrêmement minimes. On a le personnage principal, Luxley, notre personnage qu'on joue, qui est interprété par Charlie McDonald, qui est un YouTuber. Mike Bedell a été chercher un gars qui est le personnage que tu joues.
Ouais, qui est sur YouTube, qui fait nage.
Carrément, c'est d'un naturel, sa façon de livrer les lignes. Il y a évidemment une espèce de dialogue en cam une fois de temps en temps, parce que les tableaux ont pas beaucoup de narrative, mais c'est cute, c'est charmant comme façon de présenter le dialogue. Alan, qui est l'intelligence artificielle qui génère les environnements avec qui tu parles, est interprété par Danny Wallace, qui était le narrateur dans Thomas Was Alone. Donc n'importe qui a joué au jeu, tu peux pas l'ignorer, là, c'est la présence principale dans ce jeu-là, qui fait encore une super belle job avec un humour sec, un petit peu très très British, justement. Et le méchant du jeu, Gisborne, interprété par Andy Serkis, que vous connaissez probablement de du Seigneur des Anneaux, qui interprète Gollum, entre autres, qui va être dans le nouveau Star Wars, qui... Bref, c'est notre vedette hollywoodienne dans le jeu, qui a quand même un petit rôle, mais qui, comme les deux autres, fait une super belle job. Donc, très très belle palette d'acteurs, puis tout le monde fait une belle job. Donc, ça rajoute à la présentation qui est en tout point impeccable. Pour le point de la rejouabilité, qu'on disait plus tôt, le jeu inclut un éditeur de tableau. Le look, justement, carré, cubique, fait que c'est super facile d'avoir un éditeur. Et C'est fou. Le jeu est sorti, je disais, le 18, là. Aujourd'hui, à peine une semaine plus tard, il y a plus que le contenu du jeu en téléchargement. Puis à tous les vendredis, Mike Bettel ajoute des tableaux à une section qui s'appelle le Staff Picks.
C'est bon, ben justement, tu sais, souvent dans les jeux où est-ce que le monde peut créer leur contenu, moi j'ai été hyper déçu par la scrap que le monde mettait, là. Tu sais, si tu me dis que le contenu est intéressant, il est de qualité, c'est cool, là.
Je dis pas qu'il l'est tout, mais moi je suis juste allé dans les Staff Picks qui ont sorti vendredi. Sur les 20 tableaux que j'ai choisis cette semaine, j'en ai une dizaine, là, que c'est juste du bonbon, là.
C'est des Staff Picks. Alors, lui choisit dans les tableaux qui sont faits par les joueurs, ceux que lui juge étant les préférés. Puis...
Exactement. Ben, lui et d'autres de son équipe, là, je sais que c'est une très, très petite équipe, mais c'est eux autres qui choisissent tout ça. T'sais. Mais à date, tout ce qu'on a, c'est vraiment excellent. Ce qui fait que... ben, j'ai hâte de voir ce qu'on nous sortit vendredi prochain, là. Parce que c'était déjà bien le fun. Mais cela dit, si on retourne sur nos pattes de divan, moi, ce jeu-là, ouais. C'est un... c'est un 4-pattes. C'est carrément un 4-pattes. Je sais qu'il est tôt, il me semble, dans le podcast pour donner une belle review.
Ben non.
C'est écœurant. Je pensais pas pouvoir autant aimer un Metal Gear, façon de parler sans histoire, mais la preuve est dans le pudding, là. Le gameplay, il était écœurant. Puis c'est ça qui drive le jeu, puis qui va continuer à le driver à travers la communauté.
Fait que là, je peux le downloader, c'est correct?
Ouais, je peux le downloader.
Je peux jouer à Star? Ok.
On va pouvoir en parler ensemble la prochaine fois, là. Ok, fait que c'était qui?
T'as Jeff!
Jeffrey.
Everybody's gone to the rapture.
C'est, oui. c'est joyeux en partant, tu sais.
Ben ouais, ça.
C'est, ben.
Côté le moral, là.
C'est ça. C'est pas si joyeux, mais c'est quand même une belle expérience.
T'étais-tu sérieux quand tu disais c'était joyeux?
En tout cas, on va voir.
Aussi, ici, on va s'adresser aux mélancoliques entre nos auditeurs. Pour vrai, sans joke, Everybody's Gone to the Rapture, qui est sorti le 11 août 2015 sur le PlayStation 4, qui devait être sorti sur PC aussi. Mais à la dernière minute, les développeurs ont choisi de faire une entente avec Sony pour une exclusivité, ce qui nous a permis d'avoir un plus gros portefeuille finalement pour augmenter la qualité de leurs produits. Ce qui, selon moi, était la bonne décision à faire compte tenu de ce que le jeu est devenu par la suite. Mm-hmm. Peut-être juste un rapide qu'est-ce que c'est Everybody's Gone to the Rapture, parce que la plupart des gens, ils ont probablement entendu parler du titre ou l'ont probablement vu sur l'App Store, sur la PlayStation. Mais il y a très peu qui vont nous dire ce que... Ça parle pas, là. Même si on regarde les trailers, même si on lit la description du jeu, ça nous parle pas de ce qu'est-ce que je vais faire dans le jeu-là, finalement.
Ben, moi, au début, tu me parlais de ça, je pensais que c'est parce que tu venais de t'enrôler dans une église comme très, très intense là, dans l'Apocalypse. Là.
On est ici à Saint-Paul, de ça, juste à côté.
Mais en fait, on parle d'église, on n'est pas trop loin de la réalité. Là. Mais en fait, dans ce jeu-là, c'est sensiblement, ça vient s'inscrire dans ce que plusieurs appellent les walking simulators, donc les simulateurs de marche.
Comme Gone Home, je pense.
Comme Gone Home, mais c'est directement le successeur spirituel de Dear Esther. C'est les mêmes développeurs, en fait. C'est The Chinese Room qui a développé Everybody's Gone to the Rapture, qui a aussi développé Dear Esther. Et qui ça vient directement dans le même genre. Gone Home, Dear Esther, tu sais, ces jeux-là, où il se passe pas grand-chose, où on c'est plutôt une narrative, puis on va assister à une narrative, en fait. Dans Everybody's Gone to the Rapture, le joueur, on explore un petit village bucolique anglais. où tous les habitants ont mystérieusement disparu. Donc, quand le jeu commence, on est seul et on se promène dans un village qui a été abandonné. Et au fur et à mesure que le jeu va progresser, en fait, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. C'est... Déjà là, au début du jeu, l'expérience, ça s'installe rapidement. Là. Je m'installe dans mon salon, je roule la télévision, je roule la PlayStation. Le jeu était downloadé depuis la veille, fait que j'ai le temps de jouer, je m'assis, par le jeu. Là, il y a une petite cutscene au début où la caméra se promène à travers la campagne anglaise, si on veut. Puis à un moment donné, on serait une petite colline, tu vois, le logo, le nom du jeu apparaît dans l'écran, le logo du jeu disparaît, puis moi, je suis là, puis j'attends. J'attends. Il se passe rien. Là, je fais, il doit y avoir quelque chose qui load, puis il se passe rien. Puis là, je prends ma manette, puis oh, le jeu était lancé, okay. On était testé, commencé. Fait il y a aucune introduction, aucune entrée en matière, on sait. Ça commence, c'est tout. Fait que il y a des papillons qui volent, il y a des arbres sont verts, il fait beau.
Et toi, t'es comme un habitant, t'es une personne qui.
C'est la question qui est pas répondue, okay. Au coffre dans le jeu. Qu'est-ce que tu représentes en tant que joueur? T'es à la limite, là, si on va vraiment à ce que t'es réellement, t'es deux yeux qui se promènent. C'est tout ce que t'es. Si tu regardes en bas, tu vois pas tes jambes, t'as pas aucune présence dans ce univers-là.
Donc, c'est pas important.
C'est totalement pas important. Et les seules actions que tu vas poser dans le jeu, c'est marcher. Et j'insiste sur le fait de marcher, j'y reviens dans un instant. Marcher. Certaines portes peuvent être ouvertes pour rentrer dans les maisons, seulement les portes sont déjà entre-ouvertes. Déjà, les portes sont fermées, tu sais déjà que tu pourras pas y aller. Et une autre interaction, il y a quand tu vois les bouts de lumière, où j'y viens aussi dans un instant, avec lesquels tu peux interagir pour provoquer les cutscenes de l'histoire, si on veut, que tu vas pouvoir générer. En fait,
fait que bon. T'as définitivement une paire de yeux, parce que tu peux pas ouvrir une porte. Là.
Tu peux pas ouvrir une porte. Il faut que la porte soit entre-ouverte pour que tu puisses entrer, en fait. Fait que là, on parle d'un jeu où il y a aucun combat, aucun puzzle, aucun heads-up display, aucun loot, aucun inventaire, aucun score. On est vraiment... Si on parle là, du saying qui dit que video game is art, on est vraiment dans le art side du saying, on est très très loin du game side.
Ouais, c'est à la limite de c'est quoi la définition d'un jeu vidéo?
C'est vraiment à la limite. C'est extrêmement à la limite. Personnellement, je l'ai vécu comme une expérience. Puis, avant qu'on pense que c'est négatif ou quoi que ce soit, j'ai adoré l'expérience. C'était excellent. C'était à couper le souffle. C'était vraiment incroyable. Mais c'est une expérience. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un jeu, à la limite. Mm-hmm. Toute l'histoire, toute la narrative, étant donné que c'est la narrative qui est, je vais dire, 98% du contenu, c'est la narrative, et se vit à travers un être lumineux, une boule de lumière qui flotte dans le village, puis qui te guide à travers le village d'un événement à l'autre. Fait que par exemple, au début du jeu, bon, elle se promène sur la route, puis si tu bouges pas, elle vient te chercher, elle tourne autour de toi, puis elle te ramène, puis elle va juste comme s'attarder dans certaines sections, par exemple sur autour d'un banc de parc. Puis si tu vas proche du banc de parc, arrive une cutscene à laquelle tu vas pouvoir assister. Et c'est ce qu'on fait tout le jeu, c'est on assiste au déroulement de l'histoire. En fait.
C'est très guidé, là. C'est directement guidé.
Ben, il y a un beau mélange entre la linéarité du jeu puis le open world du jeu. Fait que selon certaines sections, c'est linéaire à 100%. T'es obligé de suivre le chemin. Comme entre chacun des chapitres, la nuit tombe, il fait noir, il y a comme des petits éclats lumineux sur le sol qui te disent le chemin à utiliser. Tu suis ce chemin-là puis ça t'emmène vers le chapitre suivant. C'est la seule chose qui vient briser l'immersion dans l'univers, c'est quand on change de chapitre. Il y a ce jour et la nuit-là qui change, puis juste avant que le jour revienne et qu'il s'écrit dans l'écran le nom du personnage que tu vas suivre par la suite. Oh. Fait qu'il y a comme, il y a 6 ou 7 chapitres, chacun des chapitres, tu suis un personnage principal. Fait qu'il y a peut-être une douzaine de personnages à travers l'histoire que tu vas rencontrer, mais à chaque chapitre, il y en a un qui va être prioritaire, où toute l'histoire va tourner autour de ce personnage-là. Et à travers les conversations que ces personnages-là ont entre eux, tu finis par apprendre c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi l'événement en fait qui a mené à ce qu'il n'y ait plus personne dans ce village-là.
Mais là, les conversations, dans le fond, c'est comme des genres de flashbacks ou...
C'est des flashbacks.
OK, c'est des flashbacks.
Puis c'est pas des flashbacks chronologiques.
OK.
Donc, tu vas voir... La première conversation à laquelle on assiste tout au début du jeu, c'est quelque chose... On est comme la dernière chose qui s'est passée, c'est la fin de tout.
Totalement Pulp Fiction, là. C'est
puis, mais ça revient en avant, en arrière, en avant, en arrière, puis ça jump dans le temps. Puis c'est pas important. Parce que c'est avec quoi j'en suis sorti de ce jeu-là, c'est que la narrative est la chose la moins importante du jeu, malgré que c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Puis c'est la raison pourquoi moi j'ai aimé ça.
Comment ça marche, hein?
Ben, en fait, c'est pas à propos de l'histoire. C'est pas important ce qui est arrivé. Mm. On est dans la science-fiction pure et dure. Je sais que le titre, comme on dit, ça parle d'église, ça a de l'air de Rapture, c'est très, très... on est très proche de thèmes religieux. Surtout étant dans le setting d'Angleterre et tout ça.
Mais là, c'est la musique du jeu qu'on entend.
C'est la musique du jeu qu'on entend.
L'église est quand même un peu présente. Là.
C'est pour ça qu'on est tous vraiment silencieux depuis calme. Ça, depuis que Jeff parle. C'est trop zen pour nos gags de battre.
Ouais, c'est ça. On se reprendra après. Okay. Mais pour vrai, La narrative, l'histoire, en fait, la raison pourquoi ils sont pas là est pas importante. Pourquoi tu vas passer à travers le jeu, ça s'installe rapidement puis ça devient rapidement évident. C'est la relation que chacun des personnages, que chacun des habitants de ce village-là ont entre eux. Puis c'est ce que tu découvres au fur et à mesure des petites parties d'histoire qui vont être amenées par petites miettes à travers justement les événements à laquelle la petite bulle de lumière va t'apporter. Et ça, c'est carrément, puis ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, mettons, la bulle de lumière va hover au-dessus d'un banc de parc. Quand tu t'approches du banc de parc, il y a comme des formes humanoïdes faites en particules de lumière qui vont recréer la scène, mais tu vois jamais personne. Donc, le plus proche d'avoir une autre présence dans le jeu, c'est ces particules de lumière-là qui vont recréer une scène. Tu vas voir les formes bouger puis se déplacer. Ils vont vraiment recréer l'action, mais il n'y a jamais personne.
Fait qu'on reconnaît les personnages à voix?
À leur voix. Okay. Et le writing, l'écriture des personnages est incroyable. Les personnages font du sens. Leurs personnalités sont vraiment distinctes. On les reconnaît rapidement. Par leur voix, sont distinctes aussi. Les acteurs qui ont enregistré les conversations sont vraiment, vraiment excellents. Puis, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est ce qui fait que le jeu est intéressant. C'est que tu vis à travers ces personnages-là, leur prise de conscience de ce qui leur arrive. Puis la réalité de ce petit village-là qui est... T'sais, là, on parle pas d'un village qui est avec l'armée puis tout, qui est prêt à répondre à une crise de fin du monde. Là, on parle d'un village de 200 habitants perdus dans le fin fond de la campagne en Angleterre où arrive quelque chose, puis ils doivent vivre avec ça, puis ils doivent vivre avec ça entre eux autres, tout seuls, comme ils peuvent le faire. Puis tu vas assister à travers tout le jeu, dans le fond, à les joies qu'ils vivaient avant, à leur détresse par rapport à ce qui arrive, tu véhicules les histoires d'amour, leurs peines, leurs peurs, tu vis tout ça à travers les personnages, puis c'est seulement à travers des extraits audio, des enregistrements audio, en fait.
Mais autant de contenu, parce que il me semble que tu me parles de tout ça, puis j'ai l'impression que ça doit prendre 10 ans, tu sais, passer à travers de tout ça, là, ça représente quoi comme durée de jeu?
En termes de gameplay, je pense, si ça m'a pris 7 heures, 7-8 heures maximum, mais j'ai peut-être pris beaucoup de temps parce que...
Parce que t'as pris une heure avant de commencer à jouer. Parce que
j'ai pris une heure à regarder le graphique, c'est ça?
Mais ça m'a des mains.
Mais le jeu est particulièrement beau. Il est exclusif au PlayStation 4 et il va chercher l'entièreté de la capacité du PlayStation à produire les graphiques de la nouvelle génération. Là, c'est particulièrement beau et... Le level design est vraiment intéressant. Tu te promènes vraiment dans un monde qui vient d'être abandonné de tout le monde, puis le monde a été mis sur pause. Les cigarettes fument encore dans les cendriers, les ronds sont encore allumés, quand il y a un feu, il y a eu des cendres, tu vois encore la fumée monter. Tout est là, puis souvent, à travers l'histoire, les personnages sont en train de faire des actions, puis quand t'arrives, tu les vois en termes de particules de lumière faire l'action, mais ce que tu vois rester une fois que la scène est finie, mais c'est ce qui restait de ce qu'ils ont fait. Fait que si un personnage écrivait au tableau, mais tu l'as vu écrire, puis au milieu de sa phrase, c'est arrêté d'écrire, okay, ouais, il a passé à autre chose.
Tu vois le moment exact où
c'est
ça va arrêter.
C'est le moment où le rapture est arrivé, où les événements sont passés. Tu arrives à ce moment-là, puis tu as les cutscenes qui te l'expliquent, qu'est-ce qui est arrivé.
Huh. Ouais, fait que visuellement, on s'entend que si... volume de tantôt, vous pouvez rouler sur une vieille Keclerus Casio, toi ça te prend un PS4.
C'est ça. Puis ben, c'est un super bon parallèle avec Volume parce qu'on est totalement à l'inverse. Où Volume était 100% gameplay avec un minimum d'histoire, ici niveau gameplay c'est presque totalement absent, on est 100% dans la narrative, 100% dans l'histoire. Au niveau du gameplay, là, ça se résume à marcher. Ben, quand on est dans les options du jeu, tu parles, dans les menus, dans settings, il y a les options de contrôle. Fait qu'il y a une photo de la manette, puis c'est écrit walk, look around, puis action. That's it. Fait que tu peux te déplacer, tu peux regarder, puis tu peux agir. Puis agir, c'est limité, là. Agir, ça va être rouvrir les portes qui sont déjà ouvertes.
Ah, une chance, ça prend une manette de PS4 pour jouer à ça.
Vraiment, on n'aurait pas pu se débrouiller avec un joystick d'Atari. Là,
mais il y avait...
Fuck off avec un cellulaire.
Le jeu a reçu une mauvaise critique, entre autres à cause de l'absence de boutons pour courir dans le jeu. J'ai dit que j'allais revenir sur le fait que tu marches à travers cet environnement-là.
Oui, il y avait comme de l'emphase. Hein?
C'est compréhensible parce que le jeu est tellement beau. Puis pour comprendre l'ampleur de ce qui lui est arrivé, tu peux pas courir à travers ce jeu-là. Il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu marches à travers puis que tu prennes le temps de rentrer dans les maisons, d'aller dans les cours, d'aller voir les parcs pour enfants puis de voir toutes les traces qu'ils ont laissées derrière eux. Puis Là, tu vois les jouets pour enfants à moitié abandonnés, tu vois les balançoires qui se balancent encore, tu vas voir les... Tu vois que c'était vivant, puis là, il y a juste... Tout le monde a disparu du jour au lendemain. Faut que tu prennes ton temps pour le voir, puis comprendre l'ampleur que c'est là. Puis tout ça, associé à la musique qu'on entend présentement en arrière, ça devient une expérience contemplative qui est assez intense, puis accompagnée des dialogues des personnages, puis on rentre dans l'histoire, on finit par vraiment... Pour des personnages qui sont déjà disparus, tu veux pas qu'ils disparaissent. Tu viens qu'à espérer qu'ils vont trouver une façon de s'en sortir quand tu sais déjà que, juste avec le titre du jeu, c'est perdu d'avance.
Ouais.
Mais c'est vraiment intéressant. Sauf que tu marches à travers cet univers-là vraiment lentement. Puis quand il y a des sections qui sont plus open world où tu vas vraiment découvrir le village, tu vas librement. La boule de lumière va t'emmener vers certains éléments principaux qui vont te guider à travers l'histoire principale. Mais si tu suis pas le chemin à laquelle elle te mène, puis tu vas dans les maisons ailleurs où les portes sont ouvertes, il y a quand même des narratives, il y a quand même des choses qui sont là à trouver,
c'est cool,
qui vont flécher l'histoire autour. Mais toujours attaché au personnage du chapitre dans lequel tu vis présentement. Mm. Sauf que quand ce monde open world-là t'emmène loin du chemin principal, puis tu veux revenir, par exemple, des fois, il y a il y a une section du jeu où tu es dans un camp de tente roulotte, par exemple, un camp de roulotte maison mobile. C'est fait en rond, c'est beaucoup de ronds-points. Fait que tu finis par tourner en rond, puis tu veux revenir vers l'entrée pour continuer l'histoire. Si tu es à l'autre bout, marcher, c'est très, 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 très long.
Mais il me semble que j'ai lu quelque chose récemment. J'essayais de pas lire là, à cause de la review, mais il me semble que j'ai lu quelque chose à propos d'un run button.
Ben, il y a un run button.
OK.
Il y a une option
spoilers,
pour courir.
Spoilers, il y a un run button.
C'est pas spoilers. Il y a un run button, utilisez-le. C'est R2. OK. Mais par limitation, quand ils ont shippé le jeu, ils ont été serrés dans le temps, puis les designers des interfaces des menus n'ont pas eu le temps de le mettre. Ils n'ont pas mis dans l'interface des contrôles le run button. Donc, la plupart des personnes ou des reviewers, en fait, qui ont review le jeu à sa sortie, n'ont pas couru une fois dans ce jeu-là. Le jeu qui prend 7 heures, il nous a peut-être pris un 10 heures.
Non, mais il n'y a pas personne là, qui a pris une manette et qui s'est dit « quand je tiens ça, le bonhomme bouge plus vite ».
C'est parce que ça fonctionne pas comme ça. Quand tu tiens R2, tu cours pas. Si tu marches en ligne droite en tenant R2, over time, ton personnage va finir par marcher plus vite.
Okay, ouais.
Oh, c'est un jogger, il prend ça.
Ben, avant, tu vois une différence, là, on parle d'un 25 à 30 secondes avant qu'il commence à pick up the pace.
Oh my god.
Ouais,
faut vraiment que tu le saches. Là.
Faut que tu le saches. Puis il faut que tu t'en sers pour aller sur des longues distances. Genre, juste passer d'une porte à l'autre, marche. Parce que ça sert à rien de plus sur R2, tu courras pas entre tes deux portes. Puis. Si tu tournes, ça fonctionnera pas. Fait que tu sais, c'est. Il y a peut-être place à amélioration à ce niveau-là, au niveau des contrôles.
Mais en même temps, ça rajoute au réalisme, là.
C'est clairement une expérience où tu dois regarder. Là. Ouais, t'es là pour te promener puis voir comment c'est fait.
Je pense que une discussion qu'on pourrait avoir là, plus en profondeur, mais si le jeu fait bien son travail, le fait qu'il te donne l'option de courir te fera pas courir au travers du tableau. Tu vas vouloir regarder les choses. Fait qu'il te donne l'option, c'est une option.
C'est une option, mais c'est une option probablement qui est... Je pense que ceux qui sont pleins de ça, c'est ceux qui veulent avoir... Il y a des trophies pour le PlayStation dans le jeu, mais c'est des trophies de full completion. Fait que tu vas manquer des radios, tu vas manquer des... Il y a des graffitis cachés que tu veux trouver, tu vas les manquer. Fait que si tu veux vraiment avoir 100% du jeu, tu vas vouloir le rejouer. Puis si tu peux pas courir quand tu le rejoues, c'est probablement vraiment long.
Il aurait dû mettre un timer dans le coin, tu sais, pour les speedrunners.
Challenge à ceux qui nous écoutent, j'aimerais voir un speedrun de Everybody's Gone to the Rapture.
Ouais.
Comme j'ai dit, la plupart de. C'est un jeu qui se situe beaucoup plus du hard side de Video Game is Hard que du côté game side. Je vais mettre un bémol sur les mécaniques de jeu où. Il y a des événements principaux que tu dois voir pour commencer l'histoire. Ces éléments principaux, en fait, ces éléments principaux-là, où ça va être la boule de lumière qui reste statique puis qui bouge pas, puis quand tu t'en approches, tu entends les ondes radio, tu as un cue audio comme quoi qu'il se passe quelque chose d'important ici, puis il faut que tu le regardes. Et on doit tourner la manette, puis ça sert du gyroscope dans la manette.
OK, physiquement tourner la manette.
Physiquement tourner la manette. Puis, ben, pour la mettre exactement dans l'angle requis pour cet event-là. Fait que tu te retrouves à
pour ça la manette de PS4, puis pas la manette d'Atari.
Exactement. Wow. J'ai essayé une manette d'Atari, puis ça, après 10 minutes, je me suis installé.
Ça se pluguait même
ça
pas.
Ça se pluguait pas. Et là, avec son frère à souder.
Trop projet. Mais... Il y avait le temps, et oui, il savait même pas qu'il pouvait avancer.
C'est pas que ça doit. Pendant mes 10 minutes que je regardais le paysage, essayez.
La musique, puis tout. Là.
Mais tu te retrouves dans un jeu où t'as aucun contrôle, tu ne fais que regarder. La première fois, je savais pas quoi faire. La première fois qu'il y avait une boule de lumière, j'étais en avant. J'essayais X, j'essayais de regarder autour, de me promener. J'ai pas compris, puis il y a aucune explication. Là. Fait que j'ai fini par me rendre compte de manière que là, je réagissais sur le divan, je bougeais la manette.
La manette là, c'est... Puis,
ben, j'ai fini après 30 secondes à réaliser que quand je bougeais la manette dans mes mains, le son changeait, puis il y avait un cue graphique. Puis j'ai fini par réaliser qu'il fallait que tu déplaces ta manette. Ça, c'est une mécanique qui est totalement déplacée dans tout le reste du jeu. Qui est pas expliqué.
Des mots forts.
Mais c'est vraiment... Ça brise le contexte. Là. C'est immersif. Tu rentres dans l'histoire. Tu vis cette histoire-là avec les personnages. Puis à un moment donné, tu veux savoir ce qui arrive. Et tu sais que tu vas avoir une conclusion. Là. C'est évident que tu arrives au sommet
à
l'apogée de ce personnage-là. Puis là, tu es obligé de te battre avec le jeu pendant 2 minutes pour trouver exact. C'est vraiment précis, là. Si c'est 68 degrés, essaye pas 67 ou 69, c'est 68 degrés que ta manette doit être placée, là. Fait que c'est des secondes perdues à se battre avec la manette, puis à essayer de pas bouger, à déposer tes coudes sur le divan pour être sûr d'être capable d'être stable. Parce que c'est pas ta main dans le bon angle puis ça fonctionne, il faut que tu tiennes 15-20 secondes dans le bon angle pour que la lumière s'accumule puis que le cutscene commence
pendant que ton jeune essaye de grimper sur le
j'ai joué ça qui était couché.
Ok, c'est
mais,
bon.
Mais fait que ça devient un obstacle à pouvoir assister à la suite de l'histoire. Puis j'avais l'impression en jouant au jeu qu'ils ont fait ça pour justifier le jeu à travers tout ça, justement. Parce que sans ça devient finalement
juste se promener.
Je dirais même pas une histoire interactive, parce que l'interactivité est minime à travers ce jeu-là. Fait que c'est vraiment une histoire à laquelle tu te promènes finalement, tu suis une boule de lumière puis tu assistes à une histoire. Ça reste une expérience extrêmement intéressante, parce que la musique, l'acting, la façon que ça a été écrit, les textes, combinés avec l'histoire elle-même que tu suis, c'est vraiment intense. Je dirais que c'est heartbreaking à certains moments, même. C'est assez. Je dirais pas en venir à avoir le moton là, où ça vient de te chercher, mais c'est intense par moment, en fait. Là.
Mais c'est correct. Tu as le droit de pleurer.
Non, mais ça aller en pleurer, tu vis la vie de ces personnages-là, puis sans vouloir rien spoiler. En étant moi-même le papa d'un petit garçon de 2 ans, mais le moment où les parents d'un petit garçon de 2 ans sont pris par le rapture, justement, non, puis c'est... le petit garçon reste en arrière, veut pas, moi, ça me parle.
Fait que shout-out à Ellie.
Mais moi, ça me parle, puis avec la musique, puis les environnements qui sont incroyables, puis tu te promènes à travers ça, puis c'est pas long que si tu te donnes au jeu, tu partages leur univers, puis tu partages cette petite vie-là bucolique de campagne qui est... Tout le monde voudrait habiter là. Tout le monde voudrait aller passer des vacances là.
Ça serait un bon jeu de VR. Là.
Oh. En VR, ça aurait été incroyable. De pouvoir se promener à travers cet univers-là puis de voir ce monde-là en étant présent, ça aurait été incroyable. Mais, de par le manque d'interactivité ou le peu de gameplay qu'il y a dans ça, je me suis retrouvé à devoir me forcer à m'asseoir devant la télé pour jouer au jeu. Mais une fois que je rembarquais dans cet univers-là, je voulais plus débarquer. C'était correct. Je pouvais jouer pendant 2 heures, 3 heures sans arrêt. J'ai fait le jeu en 3 settings, en fait. Là, je me suis assis 3 fois devant la télé et j'ai passé à travers le jeu. Mais quand je n'étais pas en train de jouer, j'avais le goût de jouer à autre chose que de jouer à ça, en fait. Mm-hmm. Fait que c'est difficile d'accès, mais si on lui donne une chance, ça va vous absorber dans son univers et c'est incroyable. Surtout que ça s'inscrit dans... C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les téléséries comme Black Mirror et ces choses-là. Ou ce que j'appelle du casual Brit sci-fi.
Tu viens de toucher une corde de mon côté, là.
Mais ça vient directement dans ces cordes-là. Là. C'est du, comme j'ai casual Brit sci-fi ou... Je veux dire Brit sci-fi parce que c'est... On dirait que juste les Anglais sont capables d'écrire ce genre d'histoire-là. Ou on fait du sci-fi, mais tout le sci-fi n'est pas important, c'est comment les gens vont réagir par rapport à ça, c'est tout là que l'histoire se passe. Fait que si vous avez un 6-7 heures à mettre dans une expérience, je veux dire une expérience sensorielle, plus que dans un jeu à déposer, c'est incroyable, ça
et,
vaut la peine.
Et malheureusement, ben il faut que vous ayez un PS4 par contre.
Ça prend un PlayStation, effectivement. Il y avait comme peut-être des Wii qui allaient peut-être éventuellement sortir au PC, mais il n'y a pas de date de, ou quoi que ce soit de prévu pour okay. l'instant. Malheureusement.
Mais sur ma GameCube, il n'y a pas de chance. Que...
Sur ta GameCube, non, mais comme j'ai assis sur mon Atari. Ça,
on ça attend toujours savoir. La communiqué de presse pour la version GameCube.
Le petit carré qui se promène dans une boîte de... qui cherche un autre petit carré de lumière, c'est moins immersif.
Hein. Version Atari, ça.
C'est la version Atari.
Fait... Le soundtrack mange la volée.
Donc, t'as-tu des pattes de divan à donner à ce jeu-là?
Ben, j'irais un 4 pattes de divan quand même.
Calique.
Mais.
Pour un jeu qui n'a pas de jeu.
Pour un jeu qui n'a pas de jeu, c'est pourrait, mais ça, c'est ce que c'est quand même moi, je l'ai vécu. Mais probablement que vous ou n'importe qui d'autre va jouer à ce jeu-là, peut-être que tous les thèmes vont pas nécessairement parler autant à tout le monde parce que c'est vraiment subjectif. Tu sais, je peux pas dire que les mécaniques sont intéressantes, les mécaniques, il n'y en a pas, puis la seule vraie mécanique vient nuire au jeu. Pour les... fait que je dirais peut-être un 3.75 pattes de divan, mettons.
Non, mais tu peux... Stand your ground pis dire moi c'est 4.
Moi c'est 4.
Bon, mais that's it.
Pour tout le monde, jugez-en par vous-même, moi c'est 4. 4 solides.
Mettons, on dirait-tu, si vous êtes intéressé par les jeux en tant qu'art, c'est un 4.
Ben, si vous m'avez écouté puis ramble à propos de ce jeu-là pendant un 25 minutes à peu près jusqu'à maintenant, ben, allez jouer à ça, ça vaut la peine.
Ben, good, non, j'ai pas de PS4, bâtard, mais je suis curieux.
C'est une belle expérience.
Excellent. Fait qu'est-ce qu'on est rendu à alléger un petit peu l'atmosphère?
Ouais, mais hein. Ouais, juste une seconde, je me remets les notes pour que ça ait du sens, cette histoire-là.
On dirait que ce gars-là, c'est un prof, de la façon qu'il approche ça. Ouais,
c'est des choses qui arrivent. ouais, moi, cette semaine, j'y joue quand même pas mal. Je fais une petite parenthèse là, à Metroid Fusion, qu'on va parler aussi de tantôt, quand est-ce que j'ai trouvé ça. Mais j'ai pas assez avancé dans le jeu pour en parler. J'ai l'impression qu'au niveau histoire du jeu, il manque des gros morceaux. Puis comme c'est un jeu qui est assez vieux, je pense qu'on capotera pas que les spoilers. Fait que je vais attendre d'avoir pas mal plus fini le jeu pour en parler. Donc je me suis retourné vers les autres jeux auxquels j'ai joué, c'est-à-dire des jeux qui se jouent bien dans le métro. Puis comme j'habite en campagne, des jeux qui jouent bien assis à la bas. Donc on est retourné au mobile gaming. J'ai deux jeux principalement là, parce que je suis plus un super gros joueur de téléphone. Là. J'ai joué beaucoup quand j'ai eu mon premier téléphone intelligent, puis à tout ce qui existait. Puis à un moment donné, tu fais le tour, là, t'as compris que tu reviens au Game Boy Advance parce que ces jeux-là ont plus de d'histoire. Là.
Sauf quand tu veux jouer Hearthstone.
Sauf quand tu veux jouer Hearthstone, mais je joue plus sur mon ordi.
Ah, ok.
Téléphone trop vieux et lag dans un jeu en joueur et pas super.
Est-ce que je voulais pas te faire de la peine?
Je pleurerai pas, je vais en retenir.
T'es fort, Dan.
Donc, principalement, deux jeux que j'ai joué cette semaine. Deux jeux relativement récents aussi. Je commence avec le premier, Don't Get Fired. Écoute, ce jeu-là est un jeu que j'ai trouvé un peu par hasard. Je rouvre le Play Store pour je sais plus quelle raison. Puis, paf, sur la première page, je vois une icône pixelisée. Je fais comme, moi qui aime pas du tout les jeux rétro, une icône pixelisée, ça m'attire pas. Donc j'ai décidé de cliquer dessus, c'est ce qui arrive sur le Play Store, surtout dans les jeux gratuits. Pong le jeu, puis tu sais, moi j'ai beaucoup aimé les jeux pixelisés comme Tiny Tower, là, puis même Tiny Tower Star Wars que j'ai joué beaucoup.
Excusez, c'est parce que Dan vient de faire du gameplay, puis je ris déjà, ça me met le cœur.
Je vais expliquer ce que t'as vu tantôt, je vais en reparler puis l'expliquer. Donc, c'est un jeu qui est très très drôle, là, vraiment. L'idée de base, bon, si on parle un petit peu, là, c'est développé par Quick Turtle, qui a pas développé grand chose d'autre qu'en tout cas que j'ai trouvé. Le jeu est comme en. Tu vois, Quick Turtle sur Play Store, tu tombes sur Don't Get Fired, puis Don't Get Fired, mais écrit en coréen, genre. Fait que c'est ça, style pixelisé. C'est un jeu en real time, là. Tu sais, c'est pas le genre de jeu que tu pars, t'es 1000 gogos, t'es Baptiste, puis tu t'en vas comme te coucher. C'est un jeu que tu joues comme devant ton jeu. Donc, le but, c'est de se trouver une job. Au début, là, c'est ça. Puis ça peut être long. Parce que tu veux te trouver une job, ben, faut que tu passes une entrevue. Puis là, ben, tu fails ton entrevue. Mais il n'y a pas de gameplay, là. C'est tu cliques, puis, ah, l'entrevue est failed. T'as rien à faire pour ça, c'est juste de même, c'est random. Ça fait partie, un peu du gameplay, je vais y revenir.
Je suis vraiment content d'avoir choisi un jeu qui avait du gameplay cette semaine parce que je suis seul en estique.
Mais il y en a un peu après ça. Ça, ça m'a pris 10-12 entrevues, moi, avant qu'il m'engage comme interne. Tu sais, comme interne, fait que pas de paye, pas de d'argent pour ma retraite, rien, là.
Mais sur quoi c'est basé?
Sur la réalité du marché de l'emploi coréen. Vraiment, c'est ce qu'ils disent dans les petits loading screens, là, que c'est basé quand même, ben, tu sais. Relativement, mais sur un peu le...
Mais est-ce que moi, ça va toujours me prendre 10-12 essais ou je peux avoir du deuxième coup?
Ma blonde a joué au deuxième coup, elle avait une job comme interne. Ça veut pas dire qu'elle va comme monter plus vite après, mais...
Favoritisme.
Fait que restez à l'école, gang. Restez à l'école.
Voilà. Donc, le but, c'est de trouver une job, de la garder. Éventuellement, aussi, tu veux monter en grade. Probablement que tu veux devenir président de la compagnie, éventuellement. Là, ça doit se rendre. Je sais pas, je me suis pas rendu. Donc, mais tout te fait perdre ta job dans le jeu. Hein? Le jeu s'appelle Don't Get Fired, fait que tu te fais comme fired à tour de bras. Tu sais, tu commences le jeu, puis là, t'es un interne. Puis là, tu penses que tu fais de la bonne job. Ah, t'es fired parce que, ben, ils te gardent pas. Puis s'ils te gardent pas comme interne, ben, ils te flushent pour en prendre un autre. De toute façon, ils te payent pas, tu sais.
Ah, ben, en plus, ça me plaît. Là, t'as dit, genre, tu fais sacré dehors parce qu'ils te gardent pas, mais.
Dans le fond, le principe, c'est que plus souvent tu perds ta job, plus que tu unlocks dans le fond des raisons de perdre ta job, ce qui fait que ton niveau de ton pourcentage de chance d'avoir une promotion augmente. Okay. Il y a ce bout là. Après ça, plus tu perds ta job pour la même raison, ouais, il y a un pourcentage de chance d'être promu là.
Mais c'est tout le temps comme complètement hors de ton contrôle. Pourquoi tu fais sacré d'or?
Non, okay, c'est ça. Okay. Il y a ce bout là. Il y a aussi le bout que plus tu perds souvent ta job pour la même raison, plus dans le fond le pourcentage de chance que ça se reproduise est bas. Donc là, à un moment donné, s'il te engage jamais parce que tu fais l'entrevue tout le temps, à un moment donné, tu as plus de chances de faire l'entrevue. Là, où est-ce que je suis rendu? À peu près à chaque entrevue, je me fais engager. T'sais.
Parce que tu es rendu bon à passer des entrevues.
Genre.
Oh, oui, ça a de l'allure.
Ou c'est parce qu'il s'écœure et t'engage.
C'est parce que c'est des compagnies différentes à chaque fois. Okay. Là, genre, je travaille pour ma 47e compagnie, n'importe quoi.
Ça me semble c'est un peu bizarre le concept d'être bon à passer une entrevue. Tu sais, comment tu fais ça? Tu t'en fais assez. Sauf que si t'es bon, t'en passes pas beaucoup parce que tu te fais engager.
En tout cas, de porn based sound. C'est ça qui se passe.
Oh, c'est le même que tu t'es engagé dans le
monde. Donc, l'idée est là. Après ça, t'as des promotions. Tu sais, tu passes d'interne à sous contrat. Fait que là, t'as un contrat. Puis ça, ben, si en dedans de 2 ans, mettons, ils t'engagent pas, ils te sacent dehors. Après ça, tu peux tomber full time assistant manager, manager, deputy general manager. Puis là, ça augmente. Tu sais, puis dans le fond, tu sais, il y a du gameplay là-dedans. Là. Quand t'es là, tu travailles, ben il faut que tu cliques sur les autres bonhommes de la bâtisse, tes boss qui veulent te donner de la job. Puis là, il y a un petit point d'exclamation, tu cliques dessus. Et là, tu comprends au début que si tu cliques trop vite, tu ramasses la job de tout le monde vite, ben il te sac dehors parce que plus personne n'a de job à te donner. T'sais. Fait que là, faut que tu mettes un peu à gauger le temps que tu vas cliquer, tu le laisses un peu plus longtemps avant d'aller le chercher. Après ça, quand tu pognes des postes, mettons, rendus à assistant manager, des choses comme ça, ben là, t'as du monde en bas de toi à gérer. Fait que là, eux autres, ben, ils travaillent, puis ça donne d'XP puis du gold. Puis là, ben, quand ils ont plus de job, il y a comme des petits signes, des petits Z en haut de leur tête. Fait que là, faut que tu cliques dessus pour les réveiller. Parce que si tu cliques pas dessus assez vite, t'es pas bon pour gérer ton équipe dehors, tu sais. Puis il y a aussi des pop-ups qui se produisent. Là, il y a comme un de tes boss qui vient te voir, il y a comme 3 petits points. Tu cliques dessus, puis pas une interaction. Il y a une fenêtre qui pop, puis t'as comme 2 choix, tu sais. Fait que de temps en temps, il y a des choix comme ça, même qui te pop à toi. L'idée, c'est que quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Si tu perds ta job aussi, tu as comme une espèce de bonus d'avoir perdu ta job. Puis quand tu es quand même une position élevée, le bonus est assez intéressant. Là. À un moment donné, j'ai eu plein de promotions avec des chances super basses. J'ai perdu ma job à un moment donné parce que j'ai monté bien trop vite, mais j'ai eu un gros bonus. Avec l'argent, ben tu unlocks des skills. Tu upgrades, mettons, ton speaking, ce qui fait que ta chance de promotion est plus élevée. Tu upgrades ta rapidité pour travailler. Tu upgrades le workload que tu peux avoir avant qu'ils te mettent dehors parce que t'as trop de workload, t'es pas assez vite pour l'éclairer. Puis là, tu perds ta job pour des conneries comme avoir amené des peanuts à ton boss, pas sur une assiette, mais dans le sac. Tu sais,
c'est... c'est quoi
ça? Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Tu sais, t'as une fois qui dit ton boss veut des peanuts. Puis là, t'as comme 2 options. Va chercher les peanuts dans l'assiette, va chercher les peanuts dans le sac. Puis là, si tu cliques dans le sac, t'es dehors. Tu sais, c'est un peu random, mais en même temps, c'est ce qui fait, je pense, que j'ai continué de jouer au jeu, c'est le côté complètement stupide qui est là.
No shit!
Quand tu perds ta job, là, si t'es président, tu perds ta job, tu recommences-tu flipper le burger en bas de
tu recommences 2 positions plus bas que ce que t'étais.
Ok, fait que tu recommences pas tout le temps.
Tu recommences pas tout le temps à interne. T'sais, au début, t'as l'impression que oui, puis là, ok, t'arrives au 3e, ou mettons 4e poste, puis là, tu perds, ok, j'ai juste perdu 2 spots, pas pire. puis là, ben, tu fais une niaiserie, tu repars tout ta job encore, tu te retrouves mauvais, mais ça, c'est...
Ça fait que t'as un CV, finalement.
C'est comme t'as un CV, okay. Mais qui garde pas comme si long que ça sur le CV, parce que t'as beau être rendu vice-président, si tu perds ta job une couple de fois, ils vont te reprendre comme interne. Il y a ce bout-là, il y a aussi des challenges que tu peux faire qui rajoutent un genre de petit, tu sais, un petit élément d'inattendu où est-ce que de temps en temps, tu peux pogner, tu vas faire, bon, je vais dormir. Ben, c'est pas toi qui choisis, les challenges sont random, là, puis ils reviennent à, mettons, au bout d'une heure ou quelque chose comme ça. Tu cliques dessus, ton bonhomme dort. Fait que ça donne du health, parce que t'as du health, mais ça se peut que tu te fasses pogner puis tu te fasses sacré dehors parce que t'as dormi sa job. T'sais. Fait que c'est des petits bouts intéressants comme ça. Fait que ça met un petit peu de gameplay, mais en même temps, si tu fais sacré dehors, ben, ça te donne une job de plus, tu perds ta job, ça te donne plus de chances de promotion, puis. Mais c'est, voilà. Ouais, ça, je suis revenu parce que je me suis perdu dans ma tête, puis il y a des trucs intéressants. Là.
Y a-t-il une fin à ça?
Ben, j'imagine que quand t'es rendu président, ou, là, je sais pas, quand tu cliques dans les achievements, ben, t'as comme. Genre Angel pis Demon ou je sais pas trop quoi. Fait que là, je me suis pas rendu là, c'est un peu n'importe quoi. Là.
Je m'en allais dire, tu dois pas devenir Dieu, ben, genre. Shit.
Pis y a un autre bout de gameplay que j'ai oublié de parler tantôt qui rend ça intéressant. De temps en temps, t'es là, tu travailles pis là, le président arrive. Pis là, qu'est-ce qui se passe quand le président rentre dans la place?
Ben, ça dépend, t'es dans quelle Corée, là?
je me dis dans Corée où est-ce que t'es capable de travailler sans... Okay.
Best Korea.
Ouais, Best Korea. Donc, quand le président rentre en place, tout le monde tombe comme en feu. Fait que là, comme des petites flammes style Dragon Ball autour de toi qui fait que t'es comme en feu. Tout le monde a de la job à te donner. Puis, dans le fond, quand tu joues, tu peux cliquer sur ton bonhomme, puis ça fait que tu tombes en feu, puis tu travailles plus vite. Mais ça te fait descendre ta vie. Puis là, ben, si ta vie descend à zéro, puis tu fais pas attention parce qu'il vient de commencer à jouer, ben, tu te fais sacrer dehors parce que t'es malade, puis tu peux pas rentrer travailler. Fait que quand le président est là, ben ta vie descend pas. Fait que là, tu tapes, puis là, tu travailles en fou, puis tout le monde a déjà donné. Fait que ça donne un gros workload, puis tu sais, ça donne un petit boost sur l'XP, puis tout ça. Tu sais, c'était un petit peu de gameplay intéressant. Bref, c'est assez bien. Tu sais, c'est un jeu qui est le fun, c'est un jeu qui est addictif. Là. J'ai tout le temps le goût de continuer de jouer, puis ben, tu vois, cette semaine, j'ai oublié une journée, puis mon sacré dehors, puis je suis pas rentré.
t'as oublié une journée, t'as
genre, j'ai pas joué pendant un jour.
Oh,
c'est
monac, ça a pas d'allure.
Mais ça va arriver une fois parce que. Ça, c'est arrivé une fois. Puis ça va arriver juste une fois parce que là, ça a comme 99,9% de chances de pas se reproduire.
Ok.
Fait que si ça se reproduit, c'est vraiment une méchante bad luck. Fait que t'as pas besoin de te reconnecter à chaque jour.
Mettons qu'une fois, c'est drôle, là.
Ben, c'est ça. Ou je serais d'accord avec toi parce que je veux pas me rembarquer dans une deuxième job qui me donne rien, là. Donc, dernier truc, pas pire aussi, c'est que ils disent que souvent en Corée, il faut que t'aies une part-time job parce que ta job te paye pas assez, surtout quand t'es un interne au début. Fait que t'as des part-time jobs en bas, tu cliques, puis là, ben. T'as une vidéo d'une pub, puis ça te donne du gold. Puis ce qui est intéressant, parce qu'au début du jeu, quand t'es pas payé pour travailler, puis quand ils te mettent dehors, donne pas une scène, c'est comme ça que tu pognes tes premiers skills. Moi, le jeu, je l'ai assez aimé pour décider de payer le 99 cents, enlever les pubs, puis là, ben c'est le fun parce que le part-time job, tu cliques dessus, il te donne du gold, parce qu'il y a plus de pub, pas en tout. Puis là, j'ai trouvé que, ok, avoir su ça avant, je l'aurais payé bien plus vite, parce que c'est juste une pièce, t'as plus le bandeau de pub en bas, mais t'as plus les vidéos à te taper comme, ok, tu cliques ça, tu mets ton jeu là, puis ça roule dans le vide, là.
Est-ce que tu peux jouer offline?
J'ai pas tenté, là, ça devrait. Fait que ça devrait. Oui, tu peux jouer offline. T'as pas de pub, effectivement. Je pense parce que c'est arrivé à ma blonde qui a joué.
Bon, ben.
On s'excuse pour les développeurs.
Désolé.
Mais, pro tip! Ça nous prend ça comme drop pro tip! Sacré voix offline,
je suis pas triste d'avoir comme payé 99 cents pour. J'ai beaucoup de plaisir, c'est n'importe quoi. Je retourne tout le temps jouer.
Puis encourager les développeurs.
Fait que tu sais, c'est le fun. J'ai hâte de voir où est-ce que je peux me rendre en upgradant ma job sans en perdre trop de fois de suite. C'est très drôle, là. Des fois, il y a des trucs vraiment random qui arrivent, puis tu sais, j'en ai dit une couple, là. Ben, il y en a d'autres, là. Puis c'est surprenant. Tu sais, t'es là, tu joues, puis là. Mais pourquoi j'ai perdu ma job? Puis dans les loading screens, ils te disent que les mots qui sont le plus souvent dit, c'est hein? What? Why? Les développeurs le savent que le jeu est complètement random, puis des fois tu perds ta job pour comme une raison complètement bidon. Mais en même temps, c'est ça, puis plus ça arrive, ben moins ça a de chance de se reproduire. Fait que là, tu tombes un peu plus dans le jeu. Puis bref, j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais donner un. Bon, quoi, je donnerai pas un 4, là, c'est quand même un jeu de mobile. Je vais donner un 3 patenouilla parce que c'est un solide jeu, là, amusant, qui met beaucoup d'heures.
C'est quand même un jeu à jouer dans le métro.
Quand j'ai mis dans le métro. Ou ailleurs.
Ah, ben là, moi j'ai compté, là, puis. Je suis pas sûr qu'il y a autant d'Ouya qui se sont vendus qu'on en a donné depuis deux épisodes.
Ben, c'est parce que tout l'overstock, ils nous l'ont envoyé pour nos pattes de divan gratis, là, juste pour qu'on les mette là.
Ikea slash Ouya.
Ikea Ouya. Pareil. Ou Ouya, là, comme la espèce de fausse console chinoise qui a l'air d'une.
On fera pas de segment sur Ouya, là. Googlez ça, là. C'est comme Ouya, mais avec un E à la place du A, puis on s'excuse.
Ben, tiens, une console rip-off qui rip-off le nom de la Ouya comme nom. On voit la qualité.
Ça tire. Oh, puis qu'il y a de l'air d'une Xbox qui a fourré une PS4.
Ouais, en tout cas.
Qu'il y a l'air d'une Xbox qui a.
T'as l'air d'une PS.
une PS4. Donc, c'est compact un petit peu comme. En tout cas, on en parlera pas plus longtemps, ça vaut pas la peine. Il mérite pas qu'on en parle,
c'est vraiment, là. Donc, deuxième jeu que j'ai un peu joué cette semaine, c'est un jeu qui est probablement un peu plus connu là, que mon Bizarre Don't Get Fired. Que j'ai joué, c'est Fallout Shelter. Fallout Shelter est quand même là, pas mal plus connu parce que, ben, parce que Fallout. Hein. Mm-hmm. Ceux qui connaissent pas Fallout, ben, sortez de votre bunker antinucléaire. Là.
Oui, ils l'ont pas présenté genre à E3 le jeu quand ils ont annoncé Fallout 4
hein, sûrement. Ouais. Donc, univers de Fallout, pour ceux qui connaissent pas, là, un univers post-apocalyptique où est-ce que t'as. Bon, il est arrivé une catastrophe nucléaire, puis il y a des gens dans des bunkers anti-nucléaires. Fallout Shelter, c'est comme la version où est-ce que t'es dans une vault, une des vaults là, qui est dans l'univers de Fallout, puis toi, ben, t'as à gérer ta vault. Fait que tu commences, t'as comme... ben, je m'en rappelle même pas si c'est une pièce en commençant, où tu mets tes premières pièces avec le tutoriel, puis tu développes ta vault, tu fais des grosses pièces, tu développes des pièces pour produire de l'eau, de la bouffe, de l'énergie, tu mets des pièces là, qui servent de living quarters, là, de quartier pour vivre. Puis là, ben, t'as du monde qui se pointe à ta porte de ta vault puis qui veulent rentrer. Fait que là, t'es amènes puis t'es drop dans une pièce pour qu'ils produisent des ressources ou ben, t'es mis dans les living quarters pour qu'ils produisent une ressource qui se produit dans les villes. Puis c'est exactement ce qui se passe parce que quand tu mets deux personnes avec un pas pire charisme de sexe opposé dans cette pièce-là, ben... Ils font des bébés parce qu'on veut repopuler la population. Bref, le jeu est sorti en juin sur iOS. Vient de sortir, dans le fond, il y a peut-être une semaine sur Android. Développé par Bethesda aussi, là, la même compagnie qui développe Fallout maintenant. Bon, tu sais, j'en parle un peu moins parce que j'ai pas mal moins joué. C'est sûr que j'avais hâte de l'essayer parce que j'avais entendu parler partout en juin. Puis moi, j'ai mon Android, fait que j'attendais. C'est le fun, là, ça joue bien, c'est un petit jeu comme un peu random. C'est cool parce que tu peux rusher la production dans une pièce, puis au lieu comme ben des jeux du genre de te demander de payer une 99 pour acheter des berries de Smurf là, ou des bangs.
Oh, t'as pris l'exemple de luxe.
Ouais, l'exemple de luxe. Ben, tu fais juste peser dessus, puis c'est correct, tu peux rusher. Sauf que si tu rushes, ben, t'as une chance qu'il arrive un incident, là, genre une invasion de rat roaches ou un feu qui se déclare. Puis là, ben, c'est correct parce que quand il y a une catastrophe comme ça, ben, tes petits bonhommes ils vont éteindre le feu ou vont combattre les rat roaches. Puis c'est correct parce qu'ils font de l'XP pareil puis du gold pareil. En fait, c'est des fois quasiment mieux.
T'sais. Ils ont peut-être probablement des risques de mourir ou quelque chose de même.
Ben oui, ils ont leur vie à checker. Mais tu sais.
Ouais, ils peuvent peut-être mourir, mais ça n'a
pas
de sens.
Mais en général, les incidents qui arrivent au début sont pas très très graves, sont pas dangereux tant que ça. Puis ça prend pas tellement de temps que tu développes une pièce pour produire des steam packs qui font que tu peux healer. Fait que je te dirais que le risque de mourir d'une invasion de coquerelles est assez bas. Écoute, on en reparlera peut-être dans 3 mois si je joue encore, ce qui est impossible. Puis il y a des affaires plus graves qui se produisent, mes bonhommes ils meurent, mais jusqu'à maintenant, si tu tiens de la bouffe, leur vie tout le temps assez haute, ils devraient s'en sortir.
Fait c'est pas un freemium, c'est pas un pay-to-play ou quoi que ce soit.
J'ai absolument. Hein, probablement que tu peux. Ouais, tu peux acheter des lunchboxes qui contiennent des capsules, des bottle caps, là, qui est le cash dans le fond dans cet univers-là, puis qui contient des armes puis des équipements. Mais c'est pas grave si tu le fais pas, là, parce que le jeu t'en donne pas mal aussi des okay. capsules. Fait que oui, tu peux payer, mais c'est pas comme. Ils te le mettent pas dans la face comme dans bien des jeux. Il y a bien des jeux qui sont comme. T'as plus d'énergie, hein. Fait que si tu veux jouer avant 8 heures, ben paye-moi. Non, tu peux payer pour t'acheter de quoi de plus, mais y a rien qui t'oblige. Même si t'as le goût de t'asseoir devant ton jeu puis jouer pendant 2 heures, y a pas rien qui va t'en empêcher. Fait que je trouve que c'est un modèle de freemium qui est intéressant parce qu'ils te le mettent pas dans les dents, là.
Mais t'as jamais rencontré, dans le temps que t'as joué, une situation où t'es comme t'étais serré sur l'argent que ce soit, puis où t'as comme été bottleneck à diriger
vers
le
mais,
market.
tu fais comme, ben je vais attendre parce qu'une des mécaniques que tu peux faire, c'est envoyer tes dwellers explorer le wasteland. Puis si t'es check un peu puis qu'ils te laissent pas crever, ils reviennent avec du cash puis des équipements que tu peux revendre. Fait que tu sais, si t'es serré dans le cash, laisse ton jeu rouler là, mais là de côté, le cash va comme remonter pas mal par lui-même.
Okay.
Donc oui, tu sais, si tu veux jouer non-stop, ça se peut m'emmener que t'aies plus trop de cash. Mais voilà. Donc ouais, c'est pas mal ça pour les mécaniques là. Tu peux envoyer un dweller se promener. Puis ça, c'est le seul bout qui se fait sur une longue période de temps. C'est le seul bout qui, tu sais, quand tu l'envoies, ben plus il explore longtemps, plus il revient avec du stock. Tu sais, plus de gold, plus ben, de caps, plus d'items. Puis là, moi, tantôt, je suis chanceux, on est qu'un gros bazooka. Je sais comme, yeah, la prochaine fois. Parce que des fois, ils peuvent se faire. Si tu envoies explorer, puis tu les checks pas trop, puis ils sont pas trop forts, ben ils vont se faire péter par des monstres. Ben, le côté positif, c'est que quand ils se font péter par des monstres, ben c'est pas juste ah tant pis j'ai perdu un dweller là, parce que ça serait triste étant donné que t'en as pas tant que ça qui reviennent là.
Okay,
ben tu peux payer ce piton faire revivre, ça te coûte des caps, mais jusqu'à maintenant les fois que j'ai eu à le faire, ça me coûtait à peu près autant ou moins de caps que ce que le bonhomme avait sur lui. Fait que je le faisais revivre, je le faisais ramener, tu sais, ça balançait le cash, puis j'avais les équipements, puis après ça je pouvais la repitcher, puis ça fait monter des levels. Les bonhommes ont des levels, ça fait augmenter leurs statistiques. Ils ont les mêmes stats que dans Fallout pour ceux qui ont joué, là, les specials. Puis là, dépendant d'où est-ce que tu les mets, ben, plus qu'ils ont un special qui fit avec la pièce, plus que la production est forte. Donc au début, j'ai eu une couple de difficultés parce que j'ai eu comme trop de cash dans mes boîtes à lunch que je trouvais là, en faisant une couple de missions que tu peux faire. Puis ce que ça faisait, c'est que loups, là, j'avais comme des productions trop basses parce que j'avais comme trop de pièces de construite, pas assez de monde pour faire rouler mes affaires. Mais là, ça se rebalance quand tu comprends un peu le principe. Fait que c'est cool, ça joue bien. J'ai juste pas encore compris à quel point c'est un jeu comme que tu joues en real time ou que tu pars des trucs puis tu les laisses aller parce que la production prend des fois quelques minutes à maximum. Tu sais, c'est pas une affaire de ça prend une demi-heure à produire de l'eau puis tu le mets là, tu t'en reviens. C'est comme 6 minutes. Fait que c'est un peu drôle. C'est comme un drôle de.
D'entre-deux. Hein?
Un drôle d'entre-deux. Tu sais, quand tu envoies le monde explorer, ben c'est cool, tu les envoies explorer. Tu sais, généralement, tu les envoies comme 10-12 heures, peut-être, où est-ce que je suis rendu, tu joues un peu. Parce que plus qu'ils explorent longtemps, plus qu'ils reviennent des affaires qui sont fortes. T'sais, surtout s'ils sont déjà forts, puis c'est un tout d'apprendre à évaluer ça. Mais le reste, ça prend quelques minutes. T'sais. Des fois, ça prend 5-6 minutes. T'sais, c'est un peu drôle. Fait que souvent, je fais un petit tour, je fais mes affaires, je fais un rush ou deux, puis je leur laisse ça là pendant un bout de temps. Mais c'est ça, il y a ce bout-là qui est un peu drôle où est-ce que c'est comme pas clair où est-ce que si je suis posé de jouer souvent ou pas. J'avais passé une image sur Reddit d'un gars qui avait joué quand c'était sorti en juin puis qui avait comme arrêté, puis qu'il l'a rouvert puis que son Explorer était parti depuis 44 jours, tu sais. Il était pas mort.
C'était intense.
C'était quand même intense. Mais fait que c'est ça, il y a ce bout-là qui est un peu drôle. Ce qui est intéressant aussi, il y a des missions là, que tu peux faire comme à peu près tous les jeux de mobile où est-ce que bon tu fais, tu sais... augmente le stats de temps de tes bonhommes, des choses comme ça. Puis ça donne des caps en bonus ou des boîtes à lunch, comme je disais tantôt, là, qui contiennent des affaires intéressantes, qui contiennent des bonhommes légendaires, là, des dwellers légendaires qui ont des bizarres dessous puis des gros stats. Il y en a un qui est arrivé avec un saut de roi d'Angleterre, genre une couronne. Mais il est écœurant, il y a un charisme dans le tapis, fait que je l'ai mis dans ma pièce radio où est-ce que ça attire d'autres dwellers, tu sais, c'est...
Un dweller légendaire. Ouais, c'est un concept.
Mais je pense que ça fait avec le concept de Fallout.
T'sais. Ouais, bah ouais.
Fait que c'est un jeu intéressant. Il y a juste le bout weird du temps que je suis comme pas sûr encore, mais j'ai quand même le goût de continuer de jouer. C'est beau comme jeu. Le visuel est très très comme dans Fallout. Là. Les bonhommes ont l'air des petits dwellers dans les vidéos qu'il y a dans Fallout. Les couleurs, c'est comme ton Pip-Boy, tu sais. Ils jouent là, vraiment là-dessus, puis comme tu disais, ils l'ont montré à E3 là, en même temps qu'ils annonçaient Fallout 4, fait que c'est un gros tie-in là. Mais c'est un petit jeu intéressant, puis c'est gratuit, t'as pas besoin de payer, tu peux t'acheter des lunchbox si t'es quelqu'un qui veut vraiment beaucoup puis aller bien vite, mais sinon tu peux laisser ton jeu jouer, faire une pièce de temps en temps, puis ça joue bien. Fait que je mettrais un 3 pads de 10 ans, pas de Ouya sur celui-là, on a écoulé notre stock. Parce que c'est un bon jeu,
calique.
Mais il y a le bout weird du temps que je suis pas encore capable de comprendre si c'est comme Tiny Tower dans le temps où je jouais, où est-ce que tu cliques sur un piton, ça te prend 12 heures à faire de quoi, ou si tu joues en temps réel pendant que tu regardes la télé.
Je pense, j'ai pas joué là, mais je pense que c'est une bonne idée par contre de s'en tenir au presque real time, parce que tu vas être sûr que je joue pas un jeu, là. Demande-moi de faire une action qui prend 24 heures avant que je puisse en faire de quoi, puis c'est garanti, je toucherai jamais à ton plastique de jeu, là.
Mais le 7 minutes que ça prend est comme.
Ouais, je suis d'accord.
Tu sais, c'est que ton jeu est là, puis pendant 5 minutes, il se passe rien, tu vas le fermer pareil. Ouais.
Surtout que tu joues dans le métro, fait que là, tu t'assis, tu fais une action, que tu peux pas rejouer tout le temps de ton voyage en métro.
Tu t'assis, là. Oh!
Tu t'assis dans le métro, mais lui, il tasse les personnes âgées, il tasse tout.
Des personnes âgées dans ton métro.
Dans ton métro de région.
Ouais, je peux parler du tien. Dans le mien, je te dirais qu'il n'y a pas grand monde dans mon métro.
C'est bien. C'est une bonne chose.
Une bonne chose.
C'est toi qui conduis.
C'est moi qui conduis. Généralement.
Pas mal, toujours la même destination.
Hey, puis parlant de métro de région.
Ben, en fait, avant qu'on passe vers ça, moi, je suggère qu'on prenne une petite pause parce que je t'avais de manquer d'alcool, anyway. Fait qu'on va prendre un petit break.
Puis on parle de métro de région en revenant.
Puis on parle de région en revenant. À tantôt. Hey! Bon, on est revenu de cette merveilleuse pause. J'ai de la bière, j'ai une vessie vide. On est prêt à y aller.
On est en business.
Fait que qu'est-ce qu'il nous reste à parler?
Ben, on pogne le char puis on s'en va à Saint-Eustache.
À Saint-Eux!
À Saint-Eux! Pittoresque Saint-Eux.
Pittoresque, ouais.
Ouais, c'est le mot le plus poli qu'on peut utiliser. Fait qu'on va se taper ça un petit peu.
Le paradis des t-shirts de loup.
On y reviendra.
Oui, ouais, c'est ça. C'est que. C'est,
ouais, ben vas-y avec le setup.
Voilà. Dans nos discussions de tout ce qu'on faisait pour le podcast et dans mes élucubrations, je pense que je l'ai dit au dernier podcast, hein. Élucubrations.
Possible.
Ouais, hein, ça.
Juste qu'on t'applaudisse.
Merci. On parlait justement d'aller faire du game chasing un peu, d'aller trouver du stock un peu, parce que Danny, en plus, quand on a commencé à parler du podcast, on l'a introduit au game chaser, au Power Chasers.
Oui, le Termin Arcade, les Power Chasers, oui.
Voilà, fait que je pense que ça l'a mis dans un mode à découvrir les coins pittoresques des stationnements du Québec.
Oui, tout à fait.
Alors, on s'est retrouvé à...
Puis là, on parle pas de...
Non, on parlera jamais de ça, on ferait pas ça. On est pas de même, les gars.
On est sérieux.
On va s'abstenir, il peut y avoir les mineurs qui écoutent.
Bref, ouais, j'avais le goût de. Tu sais, ça m'a donné le goût d'aller faire un peu de power chasing, d'aller faire un peu de. Pas de power chasing, mais de game chasing. Mm-hmm. Puis j'aille. Hey Matt, on va-tu à Saint-Eustache?
Ben écoute, tu peux pas me demander ça deux fois sans que je parte à rire et je fasse pas vrai. Ah ouais, si, on va y aller. Puis, ben, bref, on a demandé à Jeff s'il voulait traîner lui-même et sa progéniture.
La mini-porte.
La mini-porte.
Puis, on a ramassé mon beau-frère aussi qui fitait dans le groupe, là, quand même.
Ah, qui geek est fort. On fait un shout-out. Sean.
Shout-out à Sean. Donc, on est parti dans une belle après-midi.
Je pensais dire dans un beau Forester.
Beau Forester, mais tu sais, non, shout-out à mon char. Pas tant que ça. Donc, bel après-midi, on part. Ouais, mais en tout cas, bel après-midi, jusqu'à là qu'on voit la température, là, mais...
À tout.
Fait qu'on y va, on s'en va à Saint-Eustache, on rejoint Jeff là-bas, puis on décide de faire, bon ben, allons-y. Fait que la place, là, si on parle de la place en général pour nos auditeurs qui n'auraient pas été...
Que dire de la place?
Il aurait dû envoyer un poète.
Un poète.
Ouais, on a pas ce budget-là.
C'est un hostique de parking.
Ben, c'est un parking.
Puis au bout du parking, il y a une bâtisse qui a pas été rénovée depuis la dernière fois que je suis allé. Ça doit faire 20 ans.
Ah, elle a pas été rénovée depuis tes conçus dans son
Mais la zone restaurant.
Je pense que ça dit zone restreinte.
La zone restreinte.
Parce que c'est.
J'ai manqué ça.
C'est vraiment. On dit parking, mais c'est pas tout à fait correct. Là. C'est un ciné-parc. C'est un parking avec des gros écrans.
C'est vrai que c'est la même entrée que le cinéma.
Donc, il y a aussi y a un building. Enfin, en gros, il y a un building où est-ce qu'il y a une partie marché aux puces, mais plus, mettons des gros guillemets, là, professionnels. Genre, il y a des gens qui sont là à l'année. Puis à l'extérieur, il y a aussi des tables qui sont là très souvent. Puis il y a une zone là, plus vente de garage. T'sais.
Ouais.
Fait qu'on a commencé par la zone resto. Là, tu l'amenais, il était l'heure du dîner, puis on avait un kid à nourrir. Là. On pouvait pas juste manger des toasts.
Tout droit sorti de 1984.
Ah, ouais. Oh, c'est une belle année, ça.
Ben, mais c'est pas l'année, l'année. Le livre.
Shout-out à George Orwell. fait quoi, les restos, c'était...
Les banquettes... pas de dossier. Sacrant.
Pas de dossier.
Les bancs, pas de dossier.
Shout-out au dossier. Mais... On avait une des quatre places qu'on était assis, avait juste pas de dossier. Il avait abandonné. En fait, je pense qu'il était comme décroché.
Ouais.
Il était là, là, mais il avait abandonné.
C'est give up. Ouais.
Tu sais, je sais que maintenant, de la vie de la merde, je me flippe en dessous du coussin.
C'est un douchebag de trop.
Mais oui, ça, c'est une capsule temporelle. Tous mes souvenirs étaient conservés, quasi intacts.
Les grosses discussions sur la pertinence de pourquoi faire qu'au Québec, il n'y a pas de maillot dans les clubs quand t'es commande. Là. Mon beau-frère vient de Nouveau-Brunswick. Puis je le comprends pas. Non, moi, je pense que... Mais ouais. Ouais, avec la belle grosse bouffe, comme des pogos pré-cuits sur le condom. Des mets chinois.
Ma poutine était correcte. C'est pas pire que l'autre poutine.
Correct est le mot juste.
Oh oui, non. Correct. Mais calé.
Correct. On s'étendra pas sur la bouffe, là. On s'en va pas là pour bouffer.
L'absence totale de cabaret.
Ah, il y a des garçons en carton.
Des boîtes en carton.
Des boîtes en carton que tu plies toi-même. C'est comme une do-it-yourself boîte de carton. Avec les napkins en rouleau.
Ah oui, c'était hot. C'était pittoresque.
Écoute,
c'est
pittoresque. Ça, c'était full techno. Là. C'était pas 84. Là. Écoute, ils ont rénové.
Je suis 87.
Il y a plein de monde qui doivent nous écouter. Ils sont juste comme, calisse que vous êtes citadins. Là. C'est comme, ouh, les petits bains sont pétés, la poutine est cheap. Calisse, vous êtes fancy.
En fait, c'est parce que ça donne le ton au reste. Là.
Oui, mais de bonne façon, je pense. Parce que le reste, honnêtement, tu sais, ok, c'est. C'est un petit peu un clash culturel, rentrer dans un resto, là. Mais une fois ça fait, poutine correcte ingérée, tu rentres dans un magasin. Les magasins intérieurs, ça paraît qu'ils sont établis, ils ont des bons displays, ça a l'air des punch-ups, là. C'est correct, là. J'ai dit ça relativement positivement.
Et on peut-tu faire la critique qu'on s'était dit là-bas? Il y a deux magasins où est-ce qu'ils vendent des jeux. Puis tu sais, on a commencé par ces deux-là. On n'est pas allé voir le gars qui vend des napperons puis celui qui vend des reproductions
des
de posters du mariage de Céline Dion.
De Céline!
Mais d'accordéon.
D'accord.
On arrive au premier magasin, c'est correct, c'est plein de jeux. C'est juste pénible de regarder les jeux de Game Boy. Puis c'est un peu ce qu'on regardait en priorité parce qu'il était dans une boîte accrochée après un autre rack. Fait que t'étais comme... plié en 8. Là.
Ce qui vaut la peine d'être noté à ce moment-là et qui est à considérer pour le reste de notre exposé, faisait chaud en tabarnak. Plié en deux, entre deux racks où il n'y a pas deux personnes qui passent, à essayer de regarder les jeux, puis tu sais pertinemment que t'es dans les jambes à tout le monde, surtout JF qui avait le carrosse du petit.
C'était tellement kid-friendly, c'est tellement fait pour amener vos enfants, c'est incroyable.
Ouais, mais...
ce magasin-là avait quand même une pas pire sélection. Des prix raisonnables, là, en général.
Mettons,
là. C'était pas.
On parle-tu de nos trouvailles tout de suite? As we go?
Je ferai une partie trouvaille plus tard.
On fait un recap tantôt. Ça.
Non, c'était pas un bruit de pète, c'était mon micro.
Ouais,
donc, c'était quand même pas si mal comme place. Il y avait quand même un choix intéressant, puis des prix raisonnables. J'ai rien acheté là parce que les prix étaient pas pires sur le marché. Puis moi, j'étais vraiment plus là pour trouver des trouvailles, là, trouver quelque chose de spécial, un gros deal, parce que les jeux que je veux, que j'ai pas déjà, ils sont quand même dispendieux au prix du marché. Fait que j'étais comme, hein, on peut trouver des trouvailles, des petits jeux comme que je connais pas, que notre expert va me dire, hey, tu pong ça, tu vas avoir du fun pour 5$. Pis...
C'est-tu moi, ça?
C'est toi, ça.
Oh, you guys! Ah. Oh.
Après ça, on va à l'autre magasin. C'est cool, c'est pas mal plus spacieux, il y a de la place pour passer le carrosse.
Mais
il y a pas un foutu prix sur aucune foutue cassette. Aucun foutu.
Ou
jeu.
N'importe quoi, il n'y avait aucun prix sur rien, en fait.
Moi, quand. Tu sais, j'ai pas le goût de demander je l'ai combien, je l'ai combien, je l'ai combien, je l'ai combien. Dans un magasin, tu sais, qui est une boutique, je pense que ça passe déjà un peu plus parce que t'es là pour ça. Dans un marché aux puces, là, le monde, ils vont tout te demander ni combien, ni. Fuck it, j'ai même pas le goût.
Pis j'imagine tellement, là, tu sais, le genre de clients, c'est pas tout du monde qui sont des collecteurs ou qui game chase qui vont se pointer à la face là. Bon, ben, c'est sûrement majoritairement pas du monde de même, là. Mais justement, t'as ah oui, j'avais ça, ce jeu-là, quand j'étais kid, j'aimerais ça me le racheter, c'est combien? Ah, c'est donc bien cher. Même que les prix sont affichés, le monde réagisse de même. Oui. Imagine-tu à quel point tu dois avoir envie de slugger le monde, l'autre bord du comptoir, un moment donné, à leur dire des prix, pis à te faire répondre des affaires de même.
Tu sais, achète ta petite pochette de plastique, là. Pour pas mettre le sticker direct sur le jeu parce que t'sais,
ça serait poli.
Mets le sticker dessus, mets le prix. Après ça, si le gars il va essayer de te dealer, elle va être là, il va te dealer, tu sais, pis on a juste décidé de même pas demander un prix puis de virer de bord pour aller vivre l'expérience à l'extérieur. Déjà, ouais. En dedans, au moins, on était quand même, tu sais, il faisait moins chaud. Là.
Ouais, c'est ça. Il y avait pas de soleil. Ouais.
Non, non, en dedans, on était bien. Là, Joe
fait qu'on est allé à l'extérieur.
Into the great outdoors. Ben, cinépark / parking lot outdoors. Là. Première trouvaille en sortant, je me suis acheté des lunettes de soleil. C'était le fun.
C'était nécessaire.
10 sur 10.
C'était nécessaire, c'est ça. C'était un prérequis.
Ah oui, c'est un prérequis certain, là, t'es dans des vendeurs de cossins pis tout, faut pas qu'ils puissent te lire les yeux, là, faut que tu maintiennes ta poker face, ben oui,
ouais.
C'est pas une option, là.
Après ça, on revient le bar, pis qu'est-ce qu'on voit sur la première table?
Des Beats!
By Dr. Dre! Je veux dire, c'était clairement des vrais.
Non, par Dr. Dre, là.
Dr. Dre.
Dr. Dre. C'est le cousin coréen de Dr. Dre. Asti qu'il y avait des Beats, hein.
Ouais, c'était le running gag, là, je veux dire, tantôt, nous autres on s'était dit, hey, on s'en va à Saint-Eustache, comme JF le calé, le pays du chandail de loup, on s'est pogné un tap counter.
C'est vrai, j'avais un counter sur ma pebble, on s'est dit, toutes les fois qu'on voit des chandails de loup, vous me le dites, je compte sur ma montre.
Puis c'est quand même décevant, là.
Calé.
On a été déçus dans nos attentes de chandail de loup, quand même. Là.
Parce que, une, deux places, peut-être?
Je pense qu'officiellement, on a compté deux. On a arrêté, c'était pas...
Le premier, c'était pas un loup, c'était comme un guépard ou un loup.
Non, 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 le premier qu'on a compté, c'était... Ah oui, c'est vrai, on a compté le guépard, puis après ça, on a compté le stand qui avait genre 1 million de chandails de loup. Tu sais, puis c'était assez tôt, fait que je me suis dit, alright, we're on to something, là, ça va être une bonne après-midi. T'sais.
Mais, déception, hein.
Mais cela dit...
On aurait dû compter...
Les fucking beats.
Les fucking... que je me suis mis à appeler vers la fin, les off-beats.
Et moi, BGF, en gag de musicien qui snortle puis qui se trouve donc bien drôle avec les off-beats. Fait qu'on l'a adopté pis on l'a dit beaucoup trop souvent pis c'était pas si drôle, ouais. Finalement. Mais, hostie, qu'il y avait des beats.
Fait que la phrase de la journée, c'était « Hey man, j'ai trouvé des beats! Hey, penses-tu que c'est vrai? »
Hey! Ah ben, calé, je cherchais des beats, justement.
Mais, comment reprendre des boîtes originales vide puis mettre une copie, une pâle copie.
Non, ils produisent des boîtes clonées, là. Non, mais ils produisent... Ah, oui, oui, ben oui.
Tu penses qu'ils produisent deux boîtes...
Hey, c'est pas dur à faire des boîtes, là. C'est sûr qu'ils produisent des boîtes clonées, là.
Mais on a manqué notre coup, là. On aurait dû demander, pour le fun, combien à un. Juste pour...
Non. On aurait dû demander combien à toutes.
Ça aurait été pareil.
On a fait un graphe. Tu fais pas des sciences et des maths, toi, là, le prof, là. On aurait fait un graphique, genre, l'évolution du prix d'un set de beats
selon la distance
du bâtiment à Saint-Eustache. Ça aurait été écœurant. Études démographiques.
Du bâtiment ou du parking?
Du bâtiment. Tu pars du bâtiment. Puis plus que tu t'éloignes, c'est supposé d'être genre les. Tu vois les castes de la société.
Ah, vraiment?
Plus que tu t'éloignes.
Mais là, ils ont plus de table, tout est à terre.
Tu pars, les gens ont des tables, des auvents. Tu sais, tu vois qu'ils sont là toutes les fins de semaine, là. Mm-hmm. Ils ont leur setup, ils ont des étagères.
Ils ont une fille en bikini qui vend des t-shirts.
Ouais, elle doit pas vendre tant que ça, là.
Ben, je sais pas. Moi, elle m'aurait vendu, là. Mais en tout cas, c'est
tu veux un t-shirt de loup?
Ah ben j'ai même pas vu ce qu'elle vendait par exemple.
Ils vendent des bobettes El Suave Kid
pis
des
Pedro Kids. Fait quoi, c'est ça, les grands classiques là, pour rester sur ce sujet là, il y avait des beats aux 3 ou 4 kiosques
à peu près.
Surtout au début, c'était moins vrai en s'en allant là, mais aux 3 ou 4 kiosques on avait les El Suave, des boxers pis des bas El Suave pis Pedro Sport et Pedro Kids. Puis toi, ils ont cette petite copie de chandail, de marque, de brand name que tu veux imaginer, ah ouais. Là. Fait que t'avais... pas de Tommy Hilfiger, c'est plus à mode, hein?
Non, c'est... ils ont laissé dans le resto, hein, 84.
Référence geek, par exemple, saviez-vous qu'il y a un Game Boy Color Tommy Hilfiger Edition?
Non, je savais pas.
Il y a juste un petit drapeau Tommy Hilfiger dans le milieu des contrôles, puis that's fucking... Il est jaune, je pense. Je sais pas si ça vaut cher d'une quelconque façon, là, mais c'était cœur, hein? Que ça ait été assez un phénomène culturel, les deux en même temps.
Et donc, ouais, continue avec ce que tu es en train de dire, là, les classiques là, qu'on a vus aussi. Là. Ben moi, je suis surpris que tu n'as pas acheté des super lunettes Ray-Ban, il y en avait partout.
Des originales Ray-Ban. Ça, il y avait aussi ben, tout ce qui est speaker Bluetooth de toutes les formes et toutes les fonction imaginable. Là. Il y en avait surtout un, genre, c'était un petit bonhomme là, qui a l'air d'une grosse Christie de tête, là, genre comme les munis, là, les figurines en vinyle. Là. comme des grosses cristilles de tête, mais qu'un speaker Bluetooth dedans.
Donc oui, il est jaune le Game Boy
Color. Oui, il est jaune le Tommy Hilfiger.
Ouais, c'est vraiment autour de 100$ sur Amazon, fait que c'est quand même
assez cher. Le Game Boy Color, c'est très cher. C'est pas une console qui est dispendieuse.
Tommy Hilfiger.
Excusez.
Il marche mieux. C'est comme des beats.
Non, non, mais tous les jeux, là, peu importe quel jeu tu joues, tes bonhommes, ils ont des t-shirts Tommy Hilfiger.
Mario en jumpsuit avec son petit Christy de flag.
Ouais. Donc, beaucoup de reproductions. Moi, c'est ce que moi je m'y attendais un peu. Là, toi, au début de l'été, ma blonde, elle y avait été pour le plaisir d'aller au marché aux puces, parce que c'est toujours amusant. Puis c'est ce qu'elle m'avait dit. Là, c'est rendu beaucoup de vendeurs comme professionnels. On voit le guillemet qui veut dire qu'ils sont là tout le temps, qui essaient de vendre la même maudite crap à chaque semaine. Puis j'avoue là, que dans les premières rangées, c'était ça. Là.
C'était écœur.
C'était particulier. Là, je trop... Il n'y a rien à voir.
Et les t-shirts, les casquettes, les haut-parleurs, les speakers, les... Ils
sont concentrés là.
Les caisses de téléphone.
C'est une business.
Les caisses de téléphone.
Beaucoup ça qu'on a vu au début. Puis c'est crissement bon pour ça qu'on était là.
Vraiment pas. Pour faire du game chasing, c'était pas très agréable. Donc on a continué de marcher.
Donc, soyons honnêtes. On y allait moitié-moitié.
Oh, ouais.
Game chasing, idéalement, sinon... Chandail de loup.
Bon. Ben, s'immerser dans la culture.
Sinon.
Mais écoute, je sais que c'est pas le sujet right now, là, mais il y a quand même quelque chose d'honnête à cette réalité-là. T'sais, ça fait partie de notre monde estique. Puis, on est pas de la haute société, des cossins de même, mais pis on va là, puis on a du fun. Puis dis-toi qu'il y a probablement bien du monde qui sont là pour la même raison.
C'est sûr.
C'est nous autres, là, c'est un reflet de notre société. Puis moi, j'ai pas honte pour 5 cents de ça. C'est super
la femme. Puis moi, j'aime beaucoup le combo marché aux puces / cinépark, là, quand même.
Ouais, ça représente une époque.
Ah oh, oui, vraiment. Puis le restaurant représente exactement cette époque-là.
les derniers moments où le monde allait dans un cinépark. Tu disais pas justement que.
C'est une pensée, oui.
Qu'avant. Ah non, pas quand t'es allé au cinépark, que. Jusqu'à tout récemment, au cinépark à Saint-Eux, il y avait une pub du marché aux puces.
Il y avait une pub du restaurant. Parlait du chef Wing qui fait les menus.
Avant les films?
Entre les deux films. Il y avait une pub qui parlait du marché aux puces puis du restaurant en disant « Hey, on a... » Puis il doit pas avoir un grand marché aux puces puis qu'il y avait un chef chinois que vous avez mis chinois, là. Puis selon une experte, le chef Wing qui était là... J'ai pris en photo de dos pendant qu'il était en train de faire quelque chose.
Et
est le même chef Wing que dans la pub de l'époque.
Oh shit.
Wow.
Confirmé par une experte.
C'est partie de l'histoire. Là. C'est quelqu'un de renommé.
Ben oui, écoute, je l'ai vu sur le grand écran. Littéralement, là, il était juste sur le grand
écran. Il est au cinéma. Il a posé à la TV.
Mais effectivement, tu sais, c'est correct. On rit, mais en même temps... on a eu du plaisir, puis on savait qu'il y avait comme tout ça aussi. Là. Et, tu croises des gens aussi qui reflètent l'image, qui sont là pour acheter des beats, puis des t-shirts, des bobettes, telle soirée.
Ouais, ben ça je me demande à quel point c'est si gros vendeur. Je pense que c'est plus une question de volume et de diversité que de produits vedettes.
Mais de diversité, à toutes les 5 kiosques, le même contenu revient.
Mais ça, je me demande comment ça se passe, tu sais. Ok, comment ça? Tout le monde peut aller genre sur AliExpress, sur eBay, s'acheter des hosties de gogos dans ce genre-là. Ils te font des discounts de volume, là. Mais est-ce que. Comment tu fais pour vendre à côté de l'autre? C'est quoi, vous. T'envoies du monde checker les prix puis tu vends moins cher? Tout le monde doit être à côté sur le cost. Je sais pas comment ça va fonctionner. T'sais.
J'ai aucune idée.
Non, c'est
Mais
ça.
Moi, j'ai comme le goût de revenir un peu plus à notre sujet. Comme la raison de notre visite, ben oui, à part le plaisir de faire une visite à Saint-Eustache parce que c'était quand même amusant, puis d'être quatre geeks à parler d'affaires incroyables puis à se comprendre, là, ça c'était agréable. Mais on avait quand même un but. Fait que là, on s'éloigne tranquillement, pas vite, du building principal là, où est-ce qu'il y a. C'était quoi? C'était le jeu. Il y a deux machines d'arcade. Là, puis,
Il y avait Primal Rage. Qui a jamais été bon, fait que c'est pas surprenant que ça soit mort là. Puis il y avait Hydro Thunder avec deux sièges. Sérieux,
on a manqué notre coup.
Je suis pas sûr qu'on avait pas joué parce que j'adore ce jeu là. La version Dreamcast était cœurante, puis la version d'arcade on l'a eu longtemps à Joliette. Puis c'est un jeu que j'ai des bons souvenirs de ce jeu là. Puis on arrêtait de se tirer une game.
Vraiment, on était là pour pogner des jeux puis on a pas pris le temps. Mais en s'éloignant de ce point central-là...
Et du sujet. Par le fait même.
On s'est mis à skipper là, les tables de bobettes puis de Puis là, on est arrivé justement aux gens qui étaient moins... tu sais, qui n'avaient pas d'auvent, qui avaient des tables, puis des fois, pas de table, juste une bâche à terre avec le stock dessus. Là.
Et
des
fois, directement sur l'asphalte.
Et des fois, juste un dude qui, au gros crise de soleil à 35 degrés, dort sur le bord de sa minivan. Dort slash est mort.
On n'a pas été vérifier son pouls.
Ben, non, mais on aurait juste essayé de voler quelque chose. pas toi. Tout ça, pas ça.
Non.
Mais le gars avait vraiment de l'air plus là, là. Il dormait sur le bord, puis... Calique, là, assez rough comme journée. Pauvre gars,
tu sais. Hey, mais la chaleur qu'il faisait en plein soleil. Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai pas eu une migraine, là. J'ai comme eu une installation. J'avais pas de casquette, j'avais rien sur la tête.
Moi,
c'était correct. Ben, j'avais une casquette, j'avais...
Je l'ai pas aimé.
Ta casquette de War.
Ma casquette de War.
Non, moi, je suis sérieux, j'ai beaucoup d'or. J'étais correct. C'est chaud, mais j'en reviens.
Le coup de soleil, mais pas très fort, parce qu'on est...
Moi, c'est une petite affaire dans le cou, un peu, mais...
Hey, on est vraiment rendu loin de notre sujet. On
est en train de parler de notre installation. Ouais, on est arrivé dans le coin plus vente de garage.
Ouais. Puis ça, c'est le bout
c'est
que j'avais hâte.
C'est le fun, esti. J'ai manqué en fin de semaine passée, vente de garage à Saint-Charles. Mais d'avoir quelque chose de concentré comme ça avec ce genre de vendeur-là, tu sais. Non, je suis pas un négocieux, mais c'est le fun de voir tout le stock qui était là.
T'sais. Oui, puis écoute, on a eu. Ben du fun à trouver des affaires puis à rire des... Pas rire des gens ou rire de leur stock, mais tu sais, de faire des jokes avec le stock qu'on voyait, autant que de réussir à trouver une coupe de patente, là. Écoute, c'était...
Je suis pas du genre à... Tu sais, j'aime pas ça, genre, avoir l'impression... Quelqu'un pourrait penser que je suis en train de rire de lui. Fait quand je vois des produits, si quelqu'un me dit un prix trop élevé, je vais juste faire « ok, je vais m'en aller ». Je suis pas du genre à essayer comme de froisser quelqu'un, je fais pas ça. Je trouverais ça plate, ça m'arrive, pis d'ailleurs. Mais on a tellement pogné comme un bon mood, puis je voyais que le monde est ouvert. Le monde savent où ils sont, je présume. Puis, un moment donné, ça a pogné, là. Soit l'euphorie de la chaleur, peut-être l'insulation, finalement. Mais, calice qu'on a eu du fun. Rendu après, justement, un peu avant les ventes de garage, les derniers gros kiosques où il y avait les bacs de jouets, puis tout. Là, ça a commencé à faire comme, ok, c'est ça le fun que j'ai manqué de faire ces astiques de chase-là. Du point, elle m'a donné le goût d'en refaire. Mais asti Danny, quand on arrive d'un jouet, il y a une fille qui a un kiosque écœurant, elle a 25 bacs de jouets.
Puis jouets voulant dire figurines, là.
Oui, oui, absolument.
Exclusivement des figurines.
Que des figurines.
Des bonhommes.
Des bonhommes qu'on avait quand on était jeunes, là.
Beaucoup. Il y en a quand même des plus récents, mais toujours dans la thématique un petit peu nostalgique, là. Même les bonhommes qui sont plus récents visent à pogner quelqu'un straight dans la nostalgie. Pis non, je mettrai pas de porn drop. Il y aura pas de drop de porn.
On dans ma nostalgie. Ouais, je m'excuse.
Ouais, c'est ça. Fait que bref, on donne des kiosques de figurines.
C'est vrai que dans les boîtes, il y avait des perlins pis perlines. Pis là, c'est vrai.
Bon, bon, c'est là. Bon, ok, fine.
Mon enfance.
Mon enfance est faite porno bassée. Oui, c'est le nom du drop, la porno bass.
Bref, des beaux bacs de figurines.
C'était carrément parce que la table est massive. Faut que tu fasses le tour, ça passe pas de large. Puis là, tu fais le tour, puis tu gosses un peu. Puis là, on arrive, il y a des Star Wars. J'suis un huge fan de Star Wars. Danny, il pensait plus. On avait eu des hosties de figurines de Star Wars. Puis je crois que c'est la série de figurines que Fisher-Price faisait, qui sont comme les Galactic Heroes ou quelque chose comme... Fisher-Price, Galactic Heroes, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment des petits bonhommes qui sont plus comme squattés un petit peu. Ils ont des grosses jambes, des gros bras. Je trouve que le look est slick, ils sont vraiment des belles figurines. Mais celle que Danny a pognée... c'est un... Luke Skywalker avec son Jedi outfit, donc tout en noir. Puis il était comme tourné un petit peu de côté. Puis il avait sa grosse calice de main. Juste en avant du bap. Mais c'est comme, ok, fine, un gag de bap. Mais je m'en retourne, le stick. J'ai juste Danny avec sa figurine. Avec.
Une face de cave, là.
et à ce moment-là, Danny se proclame, check. C'est Skywalker solo.
Le mouvement était tellement bien aligné, là, ça n'a même pas de bon sens. Tu sais.
Hey, non, mais un gag de masturbateur compulsif. T'as pas le choix de rire, esti. Pas la chaleur que je faisais.
Ah, c'est ça.
Mais... ah, c'était écœurant.
Ouais, mais c'est ça. T'sais, plein de figurines, c'était drôle, c'était amusant. On continue, plein d'affaires. Des affaires cool, des affaires qu'on était un peu jaloux. Tu sais, le petit fridge de coke qu'on a.
Ah, non, petit, là. C'était genre 4 pieds.
Vous lancez que c'est pas.
Il était coeurant, là. C'était un mini fridge qui avait l'air d'une machine de coke de 4 pieds. J'ai pas demandé le prix, je sais que c'est une affaire d'une coupe de sang, là. Je m'en allais pas là-dessus. Mais
tu sais, beaucoup de trucs drôles. Bon, t'as le kiosque classique qui vend des breakers. T'as l'autre qui vend des marteaux rouillés.
Beaucoup de poignées de porte.
Beaucoup
aussi.
De poignées de porte. Vraiment un abus de poignées de porte qui a fini par faire un running gag parce qu'il y en avait tellement, tu sais.
Donc, on s'est découvert un fétichisme de poignées de porte.
Poignées de porte. Mais quand même, une couple de places intéressantes qui avait une couple de jeux. Bon, une couple de places que tu vois qu'ils ont ramassé des jeux qui traînaient dans le sous-sol qui essaient de vendre ça.
Je pense qu'on va faire notre recap là.
Ouais.
Puis on va revenir au reste des expériences. Parce que je pense que c'est le bon moment avec tout ce qu'on a vu, t'sais. Fait qu'est-ce que t'as ramassé comme jeu?
Moi, sur une de ces tables-là, je te donne le beau morceau. Je t'ai mis à fouiller dans une boîte de memory cards parce qu'en disant, hey, une cassette de Game Boy ou de Game Boy Advance, c'était un format de memory card. Puis comme de fait, deux cassettes de Game Boy Advance dans la boîte.
Deux, trois, quatre. Il y avait Mario Pinball Land. Pas un jeu particulièrement cher, mais à demander 10$ pour chacun des jeux.
Ouais, c'est ça.
Ce qui fait que entre Mario Pinball Land, qui je crois est pas mal le prix à 10$, Metroid Fusion, qui est un jeu plus autour de 25.
Ouais, autour de 20-25. Hein.
Mettons 20 US. Là. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Mario Kart.
Mario Kart que j'ai pogné aussi. Moi, j'ai pogné Metroid Fusion, puis Mario Kart Super Circuit, qui était un des seuls Mario Kart que j'avais pas, puis pas vraiment joué. Là. Sur le total de toutes les consoles, là, je m'en rendais compte en y repensant. Puis Mario Kart, 10$ aussi. Mario Kart, 9$ US quand on regarde. Fait que t'as d'un prix, Metroid d'un bon prix. Puis là, c'est là qu'on voit aussi comment les gens mettent leur prix. Déjà, c'est un bon deal, mais marche aux puces, on va essayer de dealer. Fait que genre, madame, les deux pour 15, tu sais. Puis là, qu'elle me fait, ah non, ça c'est Mario Kart, ça c'est déjà pas cher. Quand dans les faits, il était comme, tu sais, sous le prix même. Bon, tu sais, si on oublie la conversion en US, tu sais. Non, Mario Kart était pas sous prix, mais les gens voient Mario, voient Zelda ou voient quelque chose genre Donkey Kong, un nom qu'ils connaissent, montent les prix. Là.
Plus simple que ça, tu sais, ça avait vraiment dans quoi ça s'embarquait. C'est comme, hey, fuck off, mon Metroid Fusion, il y a le prix que tu vas payer pour les deux.
Voilà.
Mais non, Mario Kart, 10$, c'est pas cher. Ben, c'est vrai, c'est correct. Là.
C'est correct, mais c'est pas cher. Bon, ok, mais c'est pas stiné parce que je savais que Fusion c'était un bon jeu. Je me suis envoyé promener là, par Mathieu qui l'avait acheté là, dans un bon prix là, avant. Là,
un prix raisonnable,
mais pas 10$.
Là. Pas 10$, c'est ça. Non, j'avais payé le prix que ça valait. Puis
fait que ça a été une de mes deux bons finds de la journée dans cette section-là.
Ça me fait plaisir.
Ben, écoute, beaucoup de plaisir. On en reparlera de Fusion.
Excellent. Je l'ai pas fini, c'est pas un jeu que j'ai fini. Fait que j'ai hâte d'entendre ta take là-dessus. Jeff, qu'est-ce que t'as ramassé toi déjà?
Moi, j'étais assez raisonnable. J'ai juste ramassé.
Ça veut dire plate.
Plate, mais. J'ai qu'un salon, une fois, j'ai ramassé sur GBA la cassette avec The Link to the Past et Four Swords.
Donc, moi, c'est le Four Swords officiellement.
Moi, c'est ça, on parlait les deux sur la même. Mm-hmm.
Au magasin, parce que toutes les cassettes étaient décolorées, là.
Ah, ouais. Ouais, mais. Sauf que celle-là était quand même en bon état. Oh. J'en suis qu'elle était comme. Était comme pas sur l'étage des autres, était comme empilé par de ses autres en dessous d'un genre de sticker qui restait sur le grillage, fait qu'il était comme à l'épreuve du soleil.
Mais je pense pas qu'ils l'ont eu longtemps. C'est pas quelque chose qui reste.
Non, c'est probablement pas. Mais à 25$, parce que c'était.
C'est sûr, dans ce bout-là. Ouais, bon, fait que c'est une bonne take, même si c'était juste ça. C'était. Tu sais, c'est le même prix que t'aurais payé à Two Players Mode, là, qui est plus ma référence pour des bons prix ici localement. Là. Mais c'est sûr que je pourrais en parler longtemps de tout ça parce que moi, je rentrais, tu sais, pis. Je suis un gros boss de Game Boy, ce qui fait que j'y regarde beaucoup. Je me tiens au courant des prix. Fait que tu sais, sans jamais vouloir me déclarer expert d'une quelconque façon, là, c'est vraiment. Je suis pas si addict que ça. Je me tiens au fait des prix. Mais calique que les cassettes de Game Boy étaient maganées.
Ah,
là.
Ils étaient décolorés par le soleil.
Ça me faisait
là.
Mal, là. Puis tu sais, je suis un gros fan de la série Blade of Steel. De Blade of Steel de Nintendo, puis je suis curieux de voir qu'est-ce qui s'est fait dans cet espace-là. Puis. Le Blade of Steel au Game Boy classique, c'est un bon port. Je l'ai vu deux fois dans des étapes correctes. Rien de plus que ça. Puis, calique, il était à 10$ tout le temps. C'est un jeu de 5 balles, là. C'est rien d'autre que ça. Là. Tout le monde s'en sac de ce jeu-là. Là. Mais c'est Blade of Steel, c'est du hockey. On est au Québec, ça a l'air. Fait que c'était à 10$. T'sais. Puis, les stands, là. Il y en avait, là, les stands étaient au soleil, les cassettes de Game Boy.
Les stickers décolorés, on sort du blanc.
Ça me faisait mal. Là, j'ai choqué un Operation C contrat sur le Game Boy que je cherchais beaucoup. Il était à 15$, cassette m'a gagné un petit peu. Je m'en veux. Deux semaines plus tard, j'aurais dû le ramasser. J'aurais vraiment dû le ramasser parce
mais
que...
Mais je te comprends que quand la cassette est maganée de même par le soleil, tu te dis crime est elle va-tu être correcte? Elle va, tu sais, de toute façon, elle est lettre, puis tu veux une belle cassette. Tu sais, ouais. on c'est ça, tu sais, on veut de quoi qui est quand même beau, là.
Ben, surtout qu'elle a raison... payé le prix d'une cassette, de même, astique.
D'où la raison que j'ai pas acheté le Game Boy, l'AGS 101 que j'ai vu en fin de semaine à Trois-Rivières qui était tout scratché, puis quelqu'un avait gravé son nom sur le cover. Là, ah. Je fais non, garde-le.
Mais pour mes fans, si on peut revenir directement sur le sujet, quand on était en dedans, au tout début, le premier, c'est le tombeau du disque. Bon, je crois qu'il est le magasin directement rentrant qui avait des prix de 100 pour la plupart. J'ai ramassé deux jeux. J'ai ramassé Survival Kids en Game Boy Color, qui est un jeu autour de 25 US. L'étiquette était washed out, du crayon dessus, ce qui est pas le genre de jeu que j'achète, mais était 3$. Fait qu'un jeu... Hey, je l'ai spoté tout de suite, j'ai fait « Oh fuck ». Ouais. Il est sur les top des, il est sur les listes des top 25 de beaucoup de monde. Je me suis dit, bon, avoir l'opportunité d'avoir un jeu de même, quitte à si je tripe vraiment à m'en trouver une meilleure copie un autre jour.
Il a l'air vraiment cool, le meilleur que t'en parlais, là.
Ben, c'est pour ceux qui seraient pas familiers, parce que c'est un jeu relativement méconnu. Il y avait eu Lost in Blue sur le DS, qui a eu beaucoup plus d'attention. C'est un moitié RPG, moitié point and click adventure game par Konami, qui se présente visuellement comme un RPG. J'en dirais pas plus que ça, j'en sais pas tant plus que ça, mais t'es droppé sur une île, t'es naufragé, puis tu dois survivre dans ce mix de gameplay-là, puis ça reçoit des bonnes critiques, c'est une bonne série, puis pour ce prix-là, je suis vraiment content d'avoir ramassé. Puis j'ai ramassé Wave Race au Game Boy, qui est un, encore une fois, c'est un nothing game, là, c'est un jeu qui vaut 3$ US. Il était 8$, ils ont vu Wave Race, puis ils ont dit que le monde tripait au 64. Je me suis dit, bof, pour le 3$ que j'ai payé l'autre... J'ai payé 11$, j'ai ramassé deux jeux qui ont de l'allure. Fait que ça a été ma première prise. Après ça, j'ai ramassé dans un des kiosques que les gars avaient l'air plus des gamers. J'ai ramassé Cannon Fodder, version Game Boy Color. J'en ai dit bonnes choses, puis j'ai payé 5$. Surtout, c'était évalué autour de 10$. Je savais pas quand je l'ai ramassé.
Ça, c'est le kiosque qui avait des quand même des cool repros. Là,
ah, mais il était trop cher.
Il était très cher, là, mais qui avait quand même des repros cool là, que j'aurais comme... Ouais.
Terranigma repro, là, si c'était pas qu'il vendait 90 en montant, c'est repro.
Ouais, c'est ça.
C'est un Christy de bon jeu. Je l'ai joué pas mal sur ma Everdrive, là, pis c'est un excellent, excellent jeu qu'on a malheureusement pas eu ici. Non, les autres repros, Fire Emblem, pis tout ça, non, c'est.
Oui, il était très cher, ces repros, mais je trouve que c'est une bonne idée, je trouve que c'est intéressant d'en vendre. Mais.
Ouais, à ce prix-là, t'auras pas de takers. C'est ça, puis c'est un de ceux qui avait un Blade of Steel qui m'a coté un deal dessus, mais dans l'état de la cassette, ça me tentait pas. Puis j'ai ramassé aussi. Ah oui, le barbu. Le dos avec la barre blanche après que JF nous a crité.
Oui, qui était dans une vanne de blanche, là.
À côté justement du petit Fridge de Coke, là. Il y avait des tables de jeu, puis il avait l'air de moyennement connaître
quand
ça.
Quand même.
Mais il était super sympathique, le bonhomme. Ses prix étaient tout à fait en pointe sur tous.
Je m'en veux encore un peu de ne pas avoir acheté les quelques Black Label de Nintendo, là, genre Golf, puis qui étaient vraiment pas chers, en me disant.
En bel état.
Oui, en bel état, en me disant, mais mon NES fonctionne pas, faut que je l'arrange avant, puis.
J'aurais
dû les pogner pareil, là. Oui, parce que je voulais essayer de me limiter, mais ceux-là, ils étaient vraiment en bel état. Puis, tu sais, ils connaissaient globalement ces affaires, en tout cas assez pour avoir une petite discussion. Puis, il y avait des prix vraiment intéressants.
Ces prix étaient on point, 100%. Puis, tu sais, on a parlé, il avait ramassé. Quand il a vu qu'on était plus intéressé, il a sorti un bac de stock qu'il avait en arrière de son stock récent. Mario's Missing, il savait que c'était un titre éducatif. Il était tout au courant de ça. Fait qu'il m'a donné l'impression qu'il était tant connaissant. On s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là. J'enlève rien au gars. Mais il m'a surpris une coupe de points. Il avait l'air d'un gars qui jouait, t'sais. Mais au-delà de ça, j'ai ramassé Cobra Triangle, Onis, jeu de Rare. Un des vieux jeux de Rare, parce que tu joues un bateau. Tu personnifies un bateau. T'es un individu à moteur. non, mais c'est un jeu que j'avais de bons souvenirs. Que j'ai ramassé là, puis j'essaie de me ramasser tous les jeux, les jeux de Konami qui avaient la fameuse étiquette argentée dessus avec les deux petits dégradés chaque barre. Il y avait Bayou Billy, colique de jeu de marde, mais il était comme 5$, puis il y avait Double Dribble, le jeu de basketball de Konami, fait que j'ai ramassé ça aussi. Fait que ça a été ça, 3 jeux de Game Boy, puis 3 jeux de NES. Ah oui, c'est vrai, merci Jeff, il est dans ma face.
Mais c'est parce qu'on revient avec le tu sais, on peut revenir avec les autres affaires qu'on a trouvées parce qu'on a vu plein de trucs un peu nono. On a eu, tu sais, d'autres figurines de Star Wars qui étaient des genre de bobblehead avec les vaisseaux. Oh, c'est vraiment weird là.
Ah, il y avait je les avais jamais vus, puis le pire c'est que ben on va les présenter. C'était des bobblehead c'était vendu des McDo en fait, c'était des figurines okay, de ouais, McDo. Je sais pas à quelle époque exactement, mais forcément après les prequels, parce qu'il y avait aussi des bobblehead des prequels ouais. dans le tas. T'as un petit vaisseau de Star Wars, puis t'as un Christy grosse tête sur le top en bobblehead.
Mais le premier qu'on a vu, c'était le fighter d'Anakin là, dans genre épisode 2, là, le fighter jaune. Avec
Naboo Starfighter, ouais, dit le geek de Star Wars.
Avec la grosse tête de R2 finalement, de R2 dessus. Puis, c'est drôle, hein, belle échelle, tu sais. Puis on se revient de bord, puis.
Ah, j'ai pogné le X-Wing avec la tête de Luke. Tabouin.
Le Walker avec la tête de Chewbacca.
Y'a rien qui m'a préparé à tout ça. Ah, calique, on n'a pas parlé de No Neck Chewie.
No Neck Chewie.
Ah!
Mais ça, c'est vrai. Faut que je me prenne un peu. La même figurine que Luke Solo. Que, moi, j'suis un fan de Wookiee, là. Pas juste de Chewie, mais de Wookiee en général.
T'es un fan de Wookiee?
Exact. Oh. Aussi, là, mais... Là, on s'en va d'abord, puis il y a un Chewie dans le bloc. Ah, c'est cool, c'est Chewie, puis on le prend, puis il n'y avait pas de coup. C'est comme sa tête, ça descendait direct dans ses épaules. Il n'y avait pas comme le petit côté où est-ce que ça resserre un peu au niveau du cou. Puis on s'est mis à l'appeler No Neck Chewie. Écoute, ça, juste ce petit détail fait qu'il y a tellement l'air.
On l'a pas acheté.
Asti, c'est ça, à tout moment qu'on en parle, hein? Les hosties de Bobblehead, là. Mais j'en ai vu quelques-uns, c'est ça que je m'en allais dire. Je l'ai revu à Saint-Félix, au okay. Toit bleu. J'ai finalement décidé pour une fois de faire le tour à Saint-Félix, n'en faisant pas une histoire complète là. Puis j'ai vu, il y a un kiosque de jouets qui n'ont beaucoup. Il y avait une coupe, il n'y avait pas les X-Wing, je l'aurais probablement ramassé, mais j'ai vu une coupe des bobbleheads de McDonald's.
Ben j'avoue, okay, on se fait un queue, là, un pacte, le prochain game chasing qu'on fait, la connerie nous fait rire de même. On demande c'est combien là.
Faut l'immortaliser.
Faut l'immortaliser.
Parce que ces hosties de figurines là, en réalité, là. T'sais, on est arrivé à un autre kiosque là. Puis j'ai vu justement celui que j'ai acheté, celui que Jeff me pointait tantôt. Quand Disney a starté l'équipe des Mighty Ducks, ils ont fait une série animée aussi. Moi honnêtement, je les ai jamais écoutés. Jeff me disait que.
Un petit peu.
J'ai jamais vu ça à TV. Mais ils ont fait une série animée avec le canard, style Disney comme ils font tout le temps, des Mighty Ducks.
Il y avait comme un vaisseau spatial, puis c'était.
Ouais, c'était spécial. C'était une équipe de hockey, puis des héros galactiques.
Ah, oh, ouais, ça me dit quelque chose.
Pas mal, ça. Puis il y avait une figurine de Wild Wing, le goaler, qui se trouve en réalité être le masque qu'on voit sur l'ancien logo des Mighty Ducks. T'sais. Fait que, en fan de hockey, fan de. Je veux pas dire d'années 90, mais malheureusement, c'est un petit peu ça qui arrive à ce moment-là. J'ai vu la figurine, j'étais comme « Oh my God, j'ai jamais vu ce show-là, je savais que ça existait, il était carrément, puis je joue au hockey cosum, j'étais un goaler. » Je suis juste comme « Ok, ça me prend le stick de goaler, c'était 2$, tu sais. C'est mon meilleur achat. C'est mon meilleur achat de ceinture. Il était carrément.
Ouais, c'est ça. Donc, meilleur find de la journée, là, c'est pas ton Survival Kit à 3$, c'est ton Wild Wing.
C'est Wild Wing. Définitivement Wild Wing.
Mais non, mais quand même des pas pires trouvailles. Là. T'sais, moi, j'allais là pour trouver une coupe de jeu, puis gars, Fusion, j'ai pratiquement jamais joué à un Metroid. Puis là, je joue sans arrêt. Ben, sans arrêt, c'est relatif, mais j'en joue beaucoup. J'ai du plaisir. T'sais, ça m'a fait découvrir des jeux que je connaissais pas pour Metroid. Mario Kart, j'étais un fan, j'ai les toutes les autres, on comprend que j'aime ça. Quand même moins bon que bien d'autres, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'était le fun. Puis, méchante belle journée avec des chums, là.
Non,
on s'est amusé, là. Vraiment. Fait que. Ouais. T'as-tu quelque chose à dire?
Je me dis que c'est à refaire.
À refaire, t'as
à refaire
vraiment.
Définitivement.
Il faudrait regarder, là, s'il n'y a pas d'autre place avant la fin de l'été pour se faire plaisir, là.
Ben, au pays, en dedans, métropolitain à Montréal.
Ouais. Mais, là, en dedans, enlève le côté vente de garage.
Peut-être pas, je sais pas.
Ah, je sais pas, ben en tout cas.
Il y a peut-être une section, on ira voir.
On est tellement, tellement inculte de ce côté-là.
Donc c'est à suivre.
Ben y avait-tu. Oh,
mais on donne-tu une note au marché aux puces comme on fait avec nos jeux en pâte de 10 ans, slash Ouya.
Je pense pas qu'on puisse facilement noter le marché aux puces, mais je pense qu'on peut noter notre journée.
On peut noter notre journée, et puis ça, c'est on note notre journée, il n'y a pas d'Ouya là-dedans, là, c'est du plaisir, fait que t'es pas d'Ouya.
Ben,
c'est comme le dit le dicton, hein, quand il y a de la Ouya, il n'y a pas de plaisir.
Je pense que pour. En fait, non. Mais je pense que si c'est le temps de noter du plaisir, je l'aime bien le divan, là, mais pour noter du plaisir, je pense qu'on va noter ça en pâte de lit. Je pense que c'est un 4 pattes de lit.
4 pattes de lit.
J'approuve. Je seconde.
Ouais.
Je change de sujet.
Hey,
fait qu'on en serait rendu à notre conclusion. Dans le fond, le podcast est encore difficile à trouver. On y reviendra. Mais s'il y en a qui veulent nous rejoindre une fois que le podcast sera disponible.
Y a-tu une joke de cul à faire avec ça?
Non.
Dans Fuck It, je le fais pareil.
Impossible de ne pas bouger la tête. Hein. Donc, si quand le podcast sera disponible, divanquest@gmail.com pour nous envoyer du hate mail ou d'autres porn sounds, whatever.
Ou des suggestions de marché aux puces ou au bras.
Ou des suggestions de marché aux puces. Il est temps qu'on finisse, j'arrête pas de dire n'importe quoi. Donc, divanquest@gmail.com pour le reste. On se dit à la prochaine.
Okay, salut tout le monde.
Merci, bonsoir.
Salut tout le monde.